Du grain à moudre, face au présent, Hervé Gardette, Olivia Gesbert.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la BNF François Mitterrand, BNF Bibliothèque Nationale de France. Nous sommes à Paris, en direct et en public pour une émission spéciale jusqu'à 20h dans le cadre de la Nuit des Idées organisée par l'Institut Français. Le thème cette année, face au présent. Et c'est justement des questions qui se posent à nous aujourd'hui dans notre quotidien que nous allons réfléchir à travers 5 débats d'une vingtaine de minutes chacun. Et pour les mener, je suis en compagnie d'Olivia Gesbert. Bonsoir Olivia.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous.
Quel est le programme de la soirée?
Alors face au présent, la frugalité peut-elle nous aider à boucler les fins de mois? Face au présent, le smartphone nous a-t-il domestiqué? Deuxième débat. Face au présent, faut-il lancer des pavés pour avoir gain de cause? Face au présent, doit-on éteindre sa télé pour être bien informé? Le cas échéant, n'oubliez pas de rallumer votre radio. Et pour commencer, pourquoi faire encore des enfants? C'est vrai ça Hervé, pourquoi?
Eh bien, pourquoi faire encore des enfants, effectivement, dans un monde où la surpopulation contribue à assécher les ressources de la planète? Et pourquoi faire encore des enfants si c'est pour les faire naître dans un monde promis à la multiplication des catastrophes? Eh bien, pour répondre à cette question, en tout cas à ces questions, deux invités. Virginie Resson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géopolitologue, vous dirigez le LEPAC, le Laboratoire d'études prospectives et d'analyse cartographique. Vous avez publié chez Robert Laffont, c'était en 2016, 2038, les futurs du monde. Et pour discuter avec vous, Corinne Maillère, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, auteur de nombreux essais, notamment Bonjour Paresse, qui était consacré créé à l'art et à la nécessité d'en faire le moins possible au travail. Et puis, il y a 10 ans, vous avez publié chez Michelon « Nos kids, 40 raisons de ne pas avoir d'enfants ». Alors, je ne vais pas trahir un secret en disant que l'une et l'autre, vous avez des enfants. Virginie Resson, je crois que c'est 3. Corinne Maillère, 2. Je le dis parce que Corinne Maillère, sur la 4e de couverture de votre livre, s'était précisé que vous aviez des enfants absolument charmants. Puis Virginie Resson, c'est vrai que quand on lit certaines de vos interviews sur le monde qui se prépare, vous faites souvent référence à vos enfants. Alors justement, est-ce que cette idée de savoir dans quel monde ils vont grandir, c'est une question que vous vous êtes posée l'une et l'autre à l'époque où vous êtes devenue maman, Virginie Resson?
Pas avant, en tout cas pas avant le premier. Non, parce que l'envie d'avoir un enfant, elle procède de complètement autre chose. Elle procède d'un couple, d'une histoire personnelle, de représentation qu'on a de la transmission. Donc c'est des choses très intimes même. En revanche, c'est vrai que au deuxième et surtout au troisième enfant, je me suis fortement interrogée sur le monde dans lequel ils allaient grandir. Et c'est précisément cela qui m'a conduit à travailler sur les questions prospectives pour essayer de réfléchir comment je pouvais accompagner au mieux mes enfants vers le futur dont je savais par avance qu'il serait difficile.
En tout cas, ces interrogations ne vous ont pas dissuadé d'en avoir un troisième?
Pas du tout.
Corinne Maillère, ça a été la même chose pour vous?
En fait, non, parce que c'était il y a 25 ans à peu près, et je pense que je baignais encore dans l'optimisme béat des années 80-90. Et c'est vrai que je pensais, comme beaucoup de gens, je crois, qu'on aurait le temps de changer le monde, enfin que les choses évolueraient positivement. Et je m'aperçois avec de plus en plus d'inquiétude que malheureusement, ça ne va pas être le cas. Ce qui fait que, effectivement, là, on est dans une situation d'urgence et que faire maintenant? Donc, non, je pense que l'ambiance il y a 25 ans était très différente.
Alors, l'optimisme béat, c'est pas non plus ce qui caractérise totalement votre livre publié il y a 10 ans sur ces 40 raisons de ne pas avoir d'enfants. La 39e, vous évoquiez justement ces considérations, appelons-les environnementales, en disant trop d'enfants sur Terre, c'est une raison pour ne pas avoir d'enfants. Est-ce que ça veut dire que vous considérez que la surpopulation se traduit de manière négative sur les ressources naturelles et que donc quand on a un enfant, quelque part, on produit de la pollution, on produit des pollueurs?
Oui, enfin disons que c'est un ensemble de paramètres qui font que les choses se profilent de façon très négative pour nous. C'est-à-dire il y a les ressources, la manière dont on les utilise et dont on les consomme. Et il y a effectivement le nombre d'habitants sur Terre. Donc tout ça fait une sorte de cocktail qui semble pour l'instant effectivement nous mener au désastre. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'années, on se disait qu'on aurait le temps de rabouter tout ça pour que tout ça soit vivable. Mais actuellement, je pense que c'est plus vraiment le cas. Je pense qu'il y a un an ou deux, il y a eu vraiment une prise de conscience énorme de ces enjeux. D'ailleurs, le fait même que vous parlez de surpopulation comme un acquis...
Alors, voilà, on a une petite manifestation. On va quand même essayer de continuer la discussion, si on peut avec les micros ne pas trop entendre ce qui se passe au fond de la salle. Corinne Maillère, C'est vous qui avez convoqué des amis à vous, non?
Pas du tout. Je ne sais pas de quoi il s'agit, donc je regarde avec intérêt.
Alors je vois Sud qui vient manifester, qui vient perturber l'émission. C'est pas très sympa de votre part. Voilà.
Ce sont des grands enfants, en tout cas.
Alors, est-ce que ce serait une raison de ne pas avoir d'enfants, Corinne Meyer, peut-être?
Ah non,
de ne
pas avoir... Alors, pas du tout. Je pense que le...
Alors, on ne vous entend pas. Vous savez, si vous parlez comme ça, on ne vous entend pas vraiment dans les micros. Si vous voulez faire, si vous voulez nous dire quelque chose... Attendez, juste, si vous voulez bien, on va essayer de faire ça dans le calme et dans l'ordre. Si vous voulez, si vous avez quelque chose à dire, vous le dites rapidement. Ensuite, vous nous laissez poursuivre la discussion, ne serait-ce que par respect pour les gens qui sont venus dans le public et pour les invités, dont certaines, en l'occurrence, les deux ce soir, sont venues d'assez loin. Alors, on vous écoute, mais vous avez franchement 30 secondes, pas davantage. Et puis après, si vous voulez en discuter avec le public, vous pourrez le faire. Mais là, on est en direct à la radio.
Ce sera parfaitement suffisant, merci.
Alors, allez-y.
Alors, nous interrompons votre émission car la Bibliothèque nationale de France, d'où elle est retransmise, est en crise. Nous sommes en grève tous les samedis depuis mai 2018. Nous sommes des titulaires et des précaires de la BNF. Certains enchaînent les CDD depuis des années. Et certains sont sur une liste d'attente d'un recrutement de fonctionnaires que notre direction refuse d'appeler entièrement. Nous nous battons pour être titularisés toutes et tous. Nous refusons aussi de vous fournir un service au rabais car la BNF est en manque d'effectifs permanents. Depuis 2009, nous avons perdu 290 postes. L'austérité budgétaire et le sous-effectif minent tous les services publics. Nous avons déjà vu nos conditions de travail empirer et ce que propose la direction de la BNF depuis 8 mois est de réduire l'accès de certains services, d'employer des moniteurs étudiants plutôt que des contractuels en CDI et de nous faire travailler plus souvent.
Voilà, merci. Merci si vous le voulez bien. Voilà, vous continuerez avec la direction de la BNF. Non, s'il vous plaît. Non, essayons. On vous laisse quand même un petit espace qui n'était pas prévu. Vous auriez pu nous en parler avant et on aurait essayé de voir comment on le fait. Il y a aussi des journaux d'information dans lesquels on peut faire des reportages. Le message est passé. Maintenant, on voudrait quand même continuer la discussion. Ça serait franchement plus sympa avec les invités. On a quand même un programme chargé ce soir. Et puis, moi, je suis tout à fait prêt après à ce qu'on voit ce qu'on peut faire, pourquoi pas dans le cadre d'une émission, sur le conflit qui vous oppose à la direction de la BNF. On fait comme ça? Merci. Alors, vous pouvez attendre. Alors, attendez jusqu'à 20h parce qu'on a un direct jusqu'à 20h. Donc, on était en train de parler de la question de savoir.
De service public à service public, ouais. On va essayer de continuer aussi à faire vivre ce lieu.
Voilà, merci. On est aussi dans le service public, effectivement.
Voilà, je crois qu'elle a bien entendu là, mon avis, c'est les pas auditeurs de France Culture avec. Merci.
On pose la question ce soir de...
Moi, j'ai quelque chose à dire.
Alors, dites-le vite.
J'aime les jeunes gens en colère. Vous avez raison de vous battre comme ça et nous devons vous imiter. Voilà. Bravo.
Ça, c'est Corinne Meyer. Corinne Meyer qui ne se préoccupe pas seulement de savoir s'il faut faire ou non des enfants, mais qui s'intéresse aussi aux questions sociales. Virginie Resson, sur cette idée qu'on est en situation de surpopulation et que la situation va s'aggraver dans les années à venir. Quand on regarde les projections des Nations Unies, 9,8 milliards d'individus en 2050 contre 7,5 aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que cette idée d'une surpopulation devrait nous inciter à faire moins d'enfants?
Moi, je pense qu'il faut déconnecter les choses, il faut connecter faire les bons liens. Le lien n'est pas entre le nombre d'enfants et le nombre de naissances, il est entre notre mode de vie, notre mode de consommation et les ressources. Ce que je veux dire par là, je vais le dire en trois temps. Aujourd'hui, là où on fait le plus d'enfants, c'est en Afrique subsaharienne. D'accord ? Si vous supprimez aujourd'hui, si toutes les femmes africaines décidaient de ne plus avoir d'enfants, ça ne changerait rien à l'empreinte écologique mondiale. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de mode de vie. Le mode de vie aujourd'hui qui est le nôtre, quand je dis le nôtre, c'est celui des Européens, c'est celui des Américains, c'est celui-ci qui consomme l'essentiel des ressources planétaires.
Alors est-ce que c'est en Europe qu'il faut faire moins d'enfants?
Je vous donne juste trois chiffres très très rapides. Ah.
Voilà. Merci, c'est sympa. Allez-y Virginie Resson.
Cela dit, je souscris aussi à la nécessité d'avoir un service public
de qualité. Je crois qu'on vraiment souscrit tous à peu près aujourd'hui.
Et c'est pour ça que France Culture est... Voilà.
Virginie Resson, donc...
Trois chiffres très, très évocateurs, parce que la surpopulation, vous savez, c'est une idée qui nous vient, qui est très ancienne, hein, puisque dès l'époque de Malthus, on l'évoquait. Or, on était déjà, à l'époque, beaucoup, beaucoup moins nombreux, et il y avait déjà une tension sur les ressources. Aujourd'hui, si l'ensemble de la population mondiale adopte le régime alimentaire des Japonais, on peut nourrir avec la production agricole mondiale actuelle 8 milliards d'habitants. Si tout le monde se nourrit comme des gens du Bhoutan, c'est-à-dire un steak tous les 10 jours pour aller vite, on peut nourrir aujourd'hui 12 milliards d'habitants. Si tout le monde se nourrit comme des Européens, on peut nourrir 4 milliards d'habitants. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de la façon dont nous consommons les ressources.
Oui, mais du coup, je vous repose ma question. Ouais. Virginie Resson, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait envisager que les Européens, aujourd'hui, fassent moins d'enfants parce que c'est justement ce mode de vie-là, mode de vie, disons,
qualifions-le occidental. Ils ne font déjà plus d'enfants, les Européens. Ils sont déjà en dessous du seuil de renouvellement des générations, c'est-à-dire moins de 2 enfants par femme. En moyenne, en Europe, on est à 6-7. Et donc, on a au contraire un problème très grave de vieillissement. Donc c'est une question d'équilibre et c'est une question de frugalité davantage que de nombre d'enfants. On pourra, même si aujourd'hui on diminue encore, on va à l'extinction de l'Europe, mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est modifier nos modes de vie.
Si je vous pose la question, c'est parce qu'il me semble que dans votre livre, Corinne Maillard, vous, c'est une problématique justement que vous adoptiez également un peu comme Virginie Resson, disons. C'est pas du côté des pays en développement qu'il faut inciter les femmes notamment à avoir moins d'enfants, mais c'est chez nous, les riches, c'est chez nous qu'il y a trop d'enfants, donc c'est chez nous qu'il faut en faire moins. Avoir un enfant, écriviez-vous, dans un pays riche est un acte non citoyen.
Oui, c'est exact, mais effectivement, c'est nous qui consommons plus. Donc, c'est à nous de montrer l'exemple en faisant le moins possible. Par ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça nous condamnerait, Européens ou Occidentaux, à la disparition. Enfin, il y a beaucoup d'échanges dans le monde. Si on a besoin de main-d'œuvre, on peut faire appel à l'étranger, à d'autres gens qui pourraient venir chez nous aider. Je ne vois pas où est le problème. Donc, je ne vois pas pourquoi le fait d'avoir moins d'enfants serait un souci. Enfin, ça me semble au contraire une question d'équité, finalement, de donner l'exemple et de se dire il faut en avoir moins parce que pour sauver le monde, pour sauver les autres espèces vivantes qui sont quand même en danger à cause de notre mode de vie.
Il y avait sans doute un peu de provocation dans ce que vous écriviez toujours dans ce livre, mais vous disiez finalement ce sont ceux qui décident de ne pas en avoir dans les pays riches que l'État devrait aider. On sait qu'il y a des politiques familiales aujourd'hui avec des allocations familiales qui aident un peu ceux qui ont des enfants. Vous disiez, finalement, c'est ceux qui décident de ne pas en avoir qui devraient être favorisés financièrement.
Mais oui, c'est pas de vrai. C'est-à-dire il faudra effectivement repenser tout le système d'aide fiscale et en termes d'allocations familiales. Je crois que l'année dernière, les allocations familiales, c'est 13 milliards d'euros. Et je pense que effectivement, c'est de l'argent jeté par les fenêtres pour nous encourager à avoir des enfants qui vont, bien entendu, avoir des smartphones à 10 ans et engendrer un endettement absolument fou des parents qui s'endettent sur 20 ans pour donner la meilleure éducation possible à leurs enfants. Et ce qui fait que finalement, ils sont complètement captifs d'un système et d'une organisation en boucle qui les condamne à obéir à leur patron, à obéir à leur banque et les pousse vers un consumérisme déchaîné dont on voit l'effet tous les jours. La plupart des adolescents ont un smartphone à 10-12 ans, c'est complètement aberrant. Enfin, je veux dire, là, on est...
Une histoire, pardon, de politique de natalité aussi, mais du coup, quel serait le bon chiffre? Combien d'enfants est-ce qu'on pourrait avoir
si on fixait un critère? Comme je disais tout à l'heure, en fait, bon, un enfant, ça va, deux enfants, pourquoi pas.
D'accord.
Et trois enfants, bonjour les dégâts, mais il faut bien faire comprendre par de l'information, des débats, aux gens qu'en fait, on n'en a pas besoin. On n'en a simplement pas besoin et que c'est contraire à l'intérêt général et c'est irresponsable vis-à-vis en fait, de ces enfants qui naissent maintenant, enfin, ou qui naîtront dans l'année, puisque finalement, dans 10 ans ou 20 ans, ils seront peut-être confrontés à des famines, des guerres, enfin, des événements horribles qui risquent de se produire.
Alors, je ne sais pas si vous avez entendu bondir à vos côtés, Virginie Resson, quand vous avez évoqué cette idée de récompenser le fait de ne pas avoir d'enfants. Pourquoi est-ce que ça semble vous choquer à ce point,
D'abord, Virginie Resson ? Je suis totalement opposée au fait de dicter des comportements. C'est quelque chose qui intimement est contre, enfin, c'est contre mes idées, contre mes valeurs. Je pense que je pense qu'à chacun de choisir ses responsabilités. Je préfère m'abstenir de prendre l'avion une fois par semaine, comme beaucoup de gens, et avoir un enfant, parce que ça polluera moins que si je fais un enfant, que si on raisonne uniquement en statistiques. Hein.
Mais est-ce que la politique, par exemple, d'allocation familiale n'est pas une incitation à en avoir ?
Je ne connais personne, mais peut-être que vous me ferez découvrir quelqu'un, peut-être que dans la salle, il y a quelqu'un qui pourra me dire qu'il a fait des enfants pour toucher les allocations familiales. Quand vous connaissez le montant des allocations familiales, c'est une douce rigolade quand même. Hein. 300 euros au mieux et 400, donc il ne faut pas exagérer non plus. Donc ça n'est pas une incitation à faire des enfants, c'est une incitation à aider les familles qui sont en difficulté, puisque tout le monde ne touche pas le même montant des allocations familiales. Donc si on revient au sujet qui est l'état de la planète et le nombre d'enfants, la corrélation entre le nombre d'enfants et l'état de la planète, c'est pas le nombre d'enfants, c'est la population mondiale multipliée par le niveau de vie égale un niveau de consommation et prédation de ressources. Maintenant, en changeant de mode de vie, en diminuant la consommation des ressources qu'on peut avoir, on peut garder à population égale, on peut avoir un impact bien moindre. Donc ce n'est pas la démographie en elle-même. C'est-à-dire que si on garde notre mode de vie et qu'on fait moins d'enfants, ça ne changera rien au problème. On peut bien arrêter d'avoir des enfants si on garde le même niveau de vie. Quand vous regardez toutes les statistiques, elles vous montrent que de toute façon, la courbe continue de monter. Donc c'est pour ça que, bien sûr qu'il ne faut pas encourager, je ne suis pas là à dire formidable, faisons tous 8 enfants, parce que ce n'est pas du tout souhaitable non plus, évidemment. Mais la question, le problème pour moi est de cibler bien la question, et clairement la question c'est ce que nous mangeons, c'est la façon dont nous transportons et la façon dont nous chauffons. Voilà, donc c'est ça le cœur du sujet aujourd'hui.
Vous dites que c'est irresponsable aussi de faire des enfants aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y aurait pas une manière responsable de faire des enfants, comme on consomme responsable, puisque vous faites aussi ce parallèle avec nos modes de consommation aujourd'hui, l'excès de téléphone portable, d'écran, enfin ce qu'un enfant peut coûter aujourd'hui à la planète. On a vu une jeune fille de 16 ans, militante pour le climat, la Suédoise Greta Thunberg, prendre d'assaut la tribune brillamment à Davos. Elle l'avait fait aussi à la COP24. On se dit que si on élève nos enfants comme ses parents l'ont élevé, elle, peut-être que la planète, elle a un avenir, non, Corinne Meyer?
Alors, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que je ne suis pas favorable non plus aux méthodes autoritaires, mais je pense que la fiscalité est là pour définir les contours de l'intérêt général. C'est dans ce sens que je m'exprimais tout à l'heure. Mais je ne suis pas du tout favorable aux interdictions, aux brimades, etc. Ce serait absurde. Bon, alors, concernant ce que vous dites, oui, je suis bien d'accord, mais quand vous voyez le pourcentage d'adolescents en France et en Europe qui disposent d'un smartphone, c'est-à-dire que c'est plus de 90%, on a tout de suite compris qu'en fait, le consumérisme, il est gigantesque. Mais bien entendu que si on était plus, je dirais, plus vertueux, plus austère, mais qui l'est ? Autour de moi, très peu de gens. On veut tous donner le meilleur à nos enfants et ça implique en fait une surconsommation de biens inutiles et d'autres utiles aussi d'ailleurs. Hein. Il y a l'inutile mais aussi l'utile. Et donc finalement, on se réfère à un mode de vie que autour de nous, très peu de gens ont adopté. Mais effectivement, l'idéal, c'est effectivement une certaine austérité, très peu de consommation, etc. Mais ça concerne une marge qui est si petite que finalement ça reste abstrait au fond.
Et Virginie Resson ?
Oui, je suis convaincue. Quand vous parlez des enfants, effectivement du smartphone, ce qui est une réalité aujourd'hui, on parle d'un système, c'est-à-dire d'un système qui nous invite à équiper nos enfants de smartphones, sur lequel, cela dit, grâce à un certain nombre d'applications, ils vont pouvoir se transporter, se loger ou consommer, recycler, etc. Donc, il ne faut pas non plus jeter tout à la poubelle, parce que c'est aussi par ces applications-là qu'on arrive à faire des gains de ressources. Donc, ça, c'est quand même vertueux. J'observe chez les générations plus jeunes aussi qui passent moins de permis de conduire, qui utilisent moins la voiture, etc., etc. Donc, il y a quand même aussi l'idée que la génération suivante pourra faire mieux que la génération qui la précède, c'est-à-dire la nôtre. Donc ça c'est une première chose, il faut savoir leur faire confiance dans leur capacité de changement.
Sur la question des générations, on est déjà presque au bout de la discussion malheureusement parce qu'on a été perdu. Allez, on va prendre une petite minute de plus par rapport à ce qu'on avait prévu. Virginie Resson, d'ailleurs, je remarque que vous parlez beaucoup de smartphones. Ce sera notre troisième débat. Alors peut-être que les invités du troisième débat vont nous parler de est-ce qu'il faut faire
des enfants.
Ou pas des enfants, mais sur la question des générations. On sait que les populations, alors notamment les populations européennes, vieillissent. Est-ce que justement faire des enfants, ça ne peut pas être aussi une réponse déjà, et à ce vieillissement et à la nécessaire solidarité qui doit exister entre les différentes générations. Si on a moins d'enfants, qui va payer nos retraites, en gros ?
Ce n'est pas que nos retraites, c'est toute la prise en charge des pathologies, des types cancer, maladies neurogénératives qui augmentent avec l'âge. On a une population qui vieillit très vite. Et l'âge de la retraite, enfin la période sans travailler augmente beaucoup plus que la période en travaillant. Les générations plus jeunes diminuent, ce qui fait qu'on a effectivement, on va avoir un problème de solidarité intergénérationnelle très important, puisqu'il y aura vraiment très peu de gens pour prendre en charge et accompagner le vieillissement d'une part de la population de plus en plus importante. Pour vous donner quand même un ordre de grandeur, en 2050, l'âge moyen des votants en France, l'âge moyen des votants en France, ce sera 56 ans. 56 ans, c'est un âge moyen. Donc c'est pour vous dire comment est-ce qu'on réfléchit à l'avenir d'un pays avec un âge moyen d'un pays de 56 ans. Donc voilà, je pense que le fait de faire des enfants, ça n'est pas que consommer de la planète, c'est aussi tout un projet de société et un équilibre entre les générations.
Est-ce que vous voilà pas là une bonne raison quand même de continuer à faire des enfants, encore une meilleure pour conclure ?
Absolument pas, parce que par contre, là, ce que je vois, c'est que tout ça, avec certains éléments avec lesquels je suis tout à fait d'accord, nous donne en fait de bonnes raisons de repenser complètement la manière dont les ressources sont distribuées sur la planète, ressources financières, ressources économiques, sociales, mais aussi naturelles, pour préserver le vivant au sens large, c'est-à-dire aussi les droits des autres espèces vivantes. Et ce qui me donne de l'espoir, c'est finalement ces jeunes gens énervés qui nous ont interrompus tout à l'heure et qui ont effectivement, je pense, qui ont l'avenir devant eux et qui vont nous montrer la voie, puisque effectivement, c'est en interrompant les gens et en s'imposant dans les débats et en suscitant un débat que les choses vont changer.
Vous dites
donc
ça...
bravo à eux et j'espère qu'ils vont revenir. Où sont-ils ?
Vous dites ça à vos enfants ? Vous dites ça à vos enfants ?
Bien
devant
sûr.
La maîtresse d'école, les interrompre,
non,
interrompre
mais là,
toujours
ils ont plus
et y aller.
Ils d'accord. ont plus l'âge de la maîtresse d'école.
Oui, manifestement. Merci beaucoup, en tout cas, Corinne Maillère et Virginie Resson.
France Culture accompagne l'Institut français et s'associe à la Nuit des idées à la Bibliothèque nationale de France. Olivia Gesbert, Hervé Gardette.
Allez, 18h42 sur France Culture, émission spéciale jusqu'à 20h dans le cadre de la Nuit des idées face au présent. Nous sommes demandés pourquoi faire encore des enfants. On va maintenant s'intéresser à la frugalité. Est-ce qu'elle peut nous aider à boucler les fins de mois, Olivia Gesbert ?
Et toujours en direct et en public de la Bibliothèque nationale de France, ici à Paris. La frugalité, en effet, peut-elle nous aider à boucler les fins de mois ? La meilleure façon de maîtriser son pouvoir d'achat n'est-elle pas de consommer moins et donc de dépenser moins ? On va en parler avec nos deux invités, l'historien Jean-Claude Domas, auteur de La Révolution matérielle, une histoire de la consommation en France, qui vient de paraître chez Flammarion. Pour vous, Jean-Claude Domas, la frugalité choisie est un nouvel avatar de la volonté qu'ont toujours eu les classes supérieures de se distinguer. À vos côtés, le politologue Paul Ariès, théoricien de la décroissance, directeur de publication du mensuel Les Indignés, auteur de Gratuité versus capitalisme et... très récemment, d'une lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser. Deux essais parus chez Larousse. La décroissance, à vos yeux, la décroissance que vous aimez n'est pas l'austérité. Il faut être du côté du désir, dites-vous. On va en parler tous les deux et on commence avec vous, Jean-Claude Domas, historien de la consommation. On peut imaginer que vous êtes aussi un consommateur éclairé, raisonné, voire raisonnable, qui ne tombait pas dans tous les pièges des publicitaires et de la consommation. Quel consommateur êtes-vous ? Frugal ?
Pas vraiment, mais pas gaspilleur non plus. Donc un consommateur moyen, ordinaire, mais un peu éclairé.
Paul Ariès, vous faites attention à ce que vous dépensez ?
C'est pas vraiment que je fasse attention, c'est que je ne suis pas du tout un consommateur. Je suis davantage un usager. Et ça veut dire que, tout simplement, pour moi, la société de consommation, c'est pas une société où on consomme plus que dans une autre. C'est une société qui a d'abord reposé sur la casse d'autres façons de vivre, d'autres façons de penser, d'autres façons de rêver.
Donc quand vous allez chez Carrefour, chez Leclerc ou chez Citadium, il faut toujours citer trois marques, vous y allez comme usager, pas comme client, pas comme consommateur.
J'essaye de ne pas être victime de l'agression publicitaire. J'essaye surtout d'être du côté de la création de nouveaux styles de vie, de nouveaux modes de vie. Je crois qu'on aurait tort de rester prisonnier du débat sur le pouvoir d'achat. Je préfère être du côté du pouvoir de vivre. C'est-à-dire ne pas être simplement du côté du niveau de vie, mais davantage effectivement sur comment crée-t-on du lien dans la société ? Quel sens donne-t-on à nos existences ?
Jean-Claude Domas, on a beaucoup entendu dans le mouvement des Gilets jaunes des Français expliquer qu'ils ont aujourd'hui des fins de mois difficiles. Est-ce que vous leur dites aujourd'hui on peut faire mieux avec moins ?
Alors, personnellement, je trouverais ça indécent. Pour une raison très simple, l'intitulé de votre de ce débat était au moins paradoxal, voire un tout petit peu provocateur. En effet, il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans la frugalité, mais une frugalité contrainte. Une étude du Credo qui date de 2012 évaluait cette proportion de Français qui vivent dans la contrainte à 14%. En réalité, si on additionnait tous ceux qui devaient se serrer la ceinture, qui avaient des fins de mois difficiles, qui avaient réduit leur consommation depuis 2008, on arrivait à 48% de la population française. Et donc ces gens-là, il est difficile de leur dire « vous allez régler vos problèmes en consommant moins » puisque précisément, ils consomment moins. Et de l'autre côté, on a un petit pourcentage, il était d'ailleurs symétrique, enfin identique à celui des consommateurs contraints, c'est les consommateurs qui ont fait le choix de la frugalité, et ceux-là avaient choisi des formes de développer des consommations qu'on appelle habituellement émergentes ou alternatives, comme le troc, l'achat d'occasion. Ils consommaient une alimentation qu'on pourrait qualifier de saine et de naturelle. Ils achetaient sur des marchés paysans plutôt que dans la grande distribution, etc. Et ils représentaient donc 14% de la population française. Mais quand on leur demandait ce qu'ils feraient s'ils obtenaient un revenu supérieur, ils répondaient « je consommerai plus ». Et ils avaient comme choix de développer leurs loisirs et leurs dépenses de vacances. Donc, pour le moins, l'objectif d'une consommation choisie, d'une frugalité joyeuse ou volontaire, d'une abondance, d'une pauvreté, enfin d'une austérité, tout ce qu'on veut, et Paul Ariès pourra nous citer, j'en avais identifié une dizaine de ces oxymores qui ne veulent absolument rien dire, on ne peut pas penser que cela corresponde exactement à ce que la masse des Français pense.
La frugalité, en gros, pour vous, est un luxe que tout le monde ne peut pas
absolument
se payer. Hervé Gardel.
Justement, je voudrais rebondir à ce que vous avez dit il y a un instant, Paul Ariès, en disant qu'il faudrait arrêter de parler en termes de pouvoir d'achat. Mais arrêter de parler en termes de pouvoir d'achat, est-ce que ça n'est pas quelque chose que l'on peut se permettre quand on n'a pas de problème, justement, exactement, en termes de pouvoir d'achat?
Mais je dirais que ça, c'est le point de vue des riches vis-à-vis notamment de l'écologie. Ceux qui ont le mode de vie le plus écolo aujourd'hui, ce n'est pas les 1%. C'est notamment les populations des pays du Sud. Alors vous allez me dire, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Mais non, absolument pas. C'est parce qu'ils ont encore d'autres façons de vivre. Rappelez-vous, il y a quelques années, Jacques Séguéla, le publicitaire du système, qui disait, si à 50 ans, on n'a pas de Rolex, c'est qu'on a raté sa vie. Moi, j'ai bientôt 60 ans, j'ai toujours pas de montre de luxe, mais c'est pas d'abord parce que j'en ai pas les moyens, c'est parce que j'en ai pas le désir. Sauf que les puissants n'arrivent même pas à imaginer qu'on puisse avoir d'autres désirs qu'eux. Il y a quelques années, j'avais organisé avec Emmaüs le Forum mondial de la pauvreté. Et je peux vous assurer que ce qu'on appelle les pauvres, les gens ordinaires, leur objectif, c'est pas de vivre comme des puissants. Il y a deux chiffres essentiels. L'ONU ne cesse de nous rappeler qu'il suffirait de mobiliser 30 milliards de dollars par an pendant 25 ans pour régler le problème de la faim dans le monde. Et l'ONU ajoute que si on mobilisait 70 milliards de dollars, on réglerait le problème de la grande pauvreté. Alors rassurez-vous ou inquiétez-vous, mais ces 30 ou 70 milliards, on ne les trouve pas. Mais le budget officiel de l'armement, 1600 milliards de dollars. Le marché publicitaire mondial, plus de 700 milliards de dollars. Le seul gaspillage alimentaire nord-américain, États-Unis et Canada, c'est 100 milliards de dollars par an, trois fois ce qui serait nécessaire pour régler le problème de la faim dans le monde. Donc la planète, elle est bien assez riche pour satisfaire les besoins essentiels de 8, 9, 10 milliards d'humains.
Mais là, Paul Ariès, on est repassé avec vous à très grande échelle. Si je reviens juste à échelle humaine, celle de nos pratiques, de nos gestes quotidiens, on est très loin là depuis quelques minutes de la fameuse sobriété heureuse de Pierre Rabhi, de son éthique, de la frugalité et de la tempérance, qui sont peut-être des mots, des oxymores aussi, Jean-Claude Domas, qui vous chiffonne un peu. Il est toujours plus confortable pour tous de pouvoir dépenser sans compter, mais est-ce que dans cette idée de frugalité, elle ne nous invite pas aussi à la responsabilité aujourd'hui face au présent, c'est-à-dire à faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui est superflu dans notre consommation?
Alors, il est certain que la consommation de masse telle qu'elle existe aujourd'hui s'accompagne évidemment d'une surconsommation et de gaspillage. Mais je crois que quand on a dit ça, et ce que tout le monde sait, on n'a pas dit grand-chose. En revanche, la question que vous posez, celle de la distinction entre le superflu et le nécessaire est un véritable problème parce que ça pose le problème de la définition des besoins. Et ça renvoie à une définition naturaliste du besoin. Et distinguer un besoin superflu d'un besoin nécessaire, vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Pendant très longtemps, les habitants de cette planète se sont passés de verre à vitre. C'était un luxe, c'était un produit absolument superflu que seuls avaient les ecclésiastiques et une petite partie de l'aristocratie. Aujourd'hui, pour tous, et depuis à peu près 2 siècles, c'est un bien nécessaire. Ce qui signifie que le superflu d'hier est devenu le nécessaire d'aujourd'hui. Et c'est ainsi que les besoins de l'humanité se sont développés par diversification et affinement. Ça ne signifie pas que... Et ça pose donc là, si on se fait cette distinction entre le superflu et le nécessaire et qu'on prétend rejeter les besoins superflus, la question va être, quels sont ces besoins superflus ? Dans le magazine La Décroissance que vous avez dirigé pendant quelques années, on avait des listes de produits à proscrire, comme les lunettes de soleil, les motoneiges, les 4x4, les chaînes, les cravates, au motif que c'était un produit phallique.
Mais c'était pas une liste contrainte,
c'était une liste d'un arbitraire absolu et qui pose précisément la question de comment va-t-on différencier les besoins.
Et de qui dresse
la deuxième question, c'est qui va le faire, voilà. Et au nom de quels critères? Et là, on se rend compte, évidemment, c'était déjà une question qu'avait posée un sociologue allemand, qu'il n'y a qu'une solution, c'est un despotisme sur la consommation, une véritable dictature sur les besoins qui pourra le faire.
Et on s'en est rendu compte d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, avec un article du Monde qui a enquêté auprès des Gilets jaunes sur les ronds-points. Ils ont fait un certain nombre de portraits, notamment le portrait d'une famille qui a suscité énormément de réactions, énormément de commentaires sur leur site internet, parce qu'ils racontaient un petit peu quel était leur mode de vie et quels étaient aussi les arbitrages qu'ils faisaient pour essayer de faire plaisir à leurs enfants, leur achetant justement des sucreries, en les emmenant au cinéma. Beaucoup de réactions.
Des vêtements de marque, notamment, voilà. ce qui a beaucoup gêné les lecteurs du Monde.
Voilà, et beaucoup de réactions négatives disant, mais puisqu'ils n'ont pas de moyens, pourquoi est-ce qu'ils dépensent des choses aussi superflues, justement? C'est vrai que ça pose la question de qui décide de ce qui est nécessaire et de ce qui est superflu, Paul Ariès.
Mais bien sûr, mais on peut reprocher tout ce qu'on veut à la société d'hyperconsommation. Il faut reconnaître que c'est une société qui nous fait jouir. Il y a de la jouissance à consommer toujours plus. Il y a de la jouissance à aller toujours plus vite ou toujours plus loin. Mais c'est une mauvaise jouissance, parce que c'est une jouissance d'avoir, c'est une jouissance d'emprise, c'est le toujours plus de richesse économique, le toujours plus de pouvoir sur les autres ou sur la nature. Mais tant qu'on n'aura pas une autre forme de jouissance, j'oserais dire encore plus jouissive, à opposer à la jouissance d'avoir, on ne s'en sortira pas. Et la seule autre forme de jouissance, c'est la jouissance d'être. C'est se souvenir qu'un être humain, c'est d'abord un être social. Et c'est la raison pour laquelle il faut mettre au cœur de notre réflexion la fabrique de l'humain.
Alors pratiquement comment ?
Et c'est pourquoi, personnellement, je crois que l'issue, c'est le passage à une civilisation de la gratuité. Donc là, je ne suis pas du côté d'épices froids. Je ne suis pas du côté des durs à jouir. Lorsque je parle d'une civilisation de la gratuité, il s'agit bien sûr d'une gratuité construite, déjà économiquement construite. L'école publique est gratuite, mais elle est payée par nos impôts. Il s'agit aussi d'une gratuité culturellement construite. Je crois qu'il faut aller vers un nouveau paradigme qui serait la gratuité du bon usage face au renchérissement et parfois l'interdiction du mésusage. Ça semble compliqué, c'est en fait très simple. Pourquoi est-ce qu'on paye son eau le même prix pour faire son ménage et pour remplir sa piscine privée ? Et ce qui vaut pour l'eau doit valoir pour l'ensemble des biens communs. Mais je dirais, c'est à qui de définir ce qui doit être gratuit et renchéri ? Eh bien, c'est aux citoyens, c'est aux usagers. Et la gratuité, ça ne conduit pas au gaspillage. Nous sommes ici dans une grande bibliothèque et on a énormément d'expériences de gratuité dans les bibliothèques. Lorsqu'une bibliothèque est payante, nous sommes des bons petits consommateurs. C'est-à-dire que si on a le droit d'en emprunter 10 ouvrages ou 10 DVD, on prend le maximum, quitte à ne pas tout lire. Mais lorsque les mêmes médiathèques deviennent gratuites, alors on constate déjà le doublement, mais ça c'est attendu, du nombre d'abonnés, mais on constate surtout la diminution de 30 à 40% du nombre d'objets empruntés. Alors, parce que nous ne sommes plus des consommateurs, mais des usagers, un peu plus maîtres de nos usages.
Paul Ariès, auteur de Gratuité versus capitalisme, cette question que vous développez donc dans l'un de vos derniers essais. Je me tourne vers vous, Jean-Claude Domas. Vous disiez toujours que pour vous, la décroissance est une philosophie fondée sur la culpabilité. Vous l'entendez avec Paul Ariès, il y remet de la jouissance, du désir, et la rend peut-être un peu plus désirable à vos yeux et vos oreilles également. J'essaie de comprendre. Il y a quelques instants, vous nous disiez l'essentiel et le superflu, comment distinguer qui pourrait le faire. Avec Paul Ariès, on passe des bons usages aux mésusages. Est-ce que cette différence-là vous intéresse plus ?
Pas davantage. Pour une raison simple, c'est qu'il ne répond pas au problème, puisqu'il le transfère sur le bon usage et le mésusage. Donc en réalité, on a simplement déplacé le problème, on l'a habillé autrement, mais on n'a rien réglé. Le problème qui est central, c'est, effectivement, si on va partir d'un constat simple, nous consommons trop. Bon. Par rapport aux ressources de la planète, le constat, tout le monde le fait, c'est pas la peine de s'attarder davantage. La question simple, c'est comment va-t-on passer à autre chose, à la société suivante, disons, hein, je vais pas le donner de qualificatif, celle d'après. Alors, on peut, en tant qu'historien, moi je n'ai pas d'avis en tant qu'historien sur la question de savoir si la décroissance c'est bien ou pas bien. J'ai simplement, je lis les textes et j'essaye de comprendre ce qu'on me dit. Et ce qu'on me dit, c'est, ça sera une société où auront disparu l'avion, la voiture, la télévision, tous les objets techniques. C'est une société où la production sera organisée en toutes petites unités de production. C'est une société où nous vivrons en toutes petites communautés, quasi autarciques, mi-artisanales, mi-agricoles. C'est une société où... disons cette définition-là. Comment y va-t-on ? Alors la réponse, nous, on la trouve dans tous les textes. Alors en général, on commence avec des puteurs de gazelle, comme dirait Mélenchon, par se poser la question de savoir est-ce que il faut de la violence ? Peut-être, peut-être pas. Mais en gros, on va faire confiance à quoi ? À la catastrophe qui vient. La catastrophe qui vient d'ici 20, 30, 40 ou 50 ans, on nous annonce une crise terrible avec des guerres, des épidémies, des émeutes, des vastes mouvements de population, des catastrophes écologiques, et on nous dit il restera 3 milliards d'habitants sur Terre. Là, on a réalisé le rêve de Malthus, c'est génial. Et comme il y aura une espèce de vide du pouvoir, on pourra s'engouffrer là et créer ce nouveau monde. Mais en même temps, on ajoute que comme ce nouveau monde va reposer sur le rationnement, il va bien falloir, comme disait par exemple Latouche, pour des raisons techniques, un pouvoir fort. Et c'est ce pouvoir fort qui organisera le rationnement et fera fonctionner cette société. Notez, je termine, juste une seconde. On a déjà connu une situation de catastrophe absolue de ce genre, sur lesquelles, où on n'a que des ruines. Il suffit d'imaginer, par exemple, la Russie, après 3 années de guerre mondiale et 4 années de guerre civile. Il n'y a plus rien. C'est le chaos total. Et c'est ce que les décroissants attendent, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-là pour arriver à créer cette espèce de nouveau monde où on nous annonce, alors au choix, parce que on peut pas vraiment dire que ce sont des spécialistes de l'économie, on nous annonce que ça sera le niveau de vie de 1960, ou ce sera le niveau de vie des Indiens, ou ce sera le niveau de vie de la France divisé par 4. Mais c'est bien pire que ça, je vous assure.
Alors, pour terminer avec vous, Paul Ariès, face à la crise économique, écologique, sociale, de l'obsolescence programmée au gaspillage, ce monde du toujours plus et du tout jetable, est-ce qu'il est encore tenable ?
Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que la décroissance, ça peut déboucher sur le meilleur comme sur le pire. C'est un chemin de crête. Et effectivement, je dirais qu'il y a des familles très différentes dans les milieux de la décroissance. La décroissance que j'aime, c'est tout simplement l'idée de chercher des solutions en dehors du mythe de la croissance. Là encore, il y a un chiffre qui doit au moins nous réunir, c'est qu'on sait que chaque 8 août, nous dépassons les capacités de régénération de la planète. Tout ce qui est produit et consommé mondialement après le 8 août l'est au détriment des générations futures. Mais le 8 août, c'est une moyenne mondiale. Et comme toute moyenne, ça cache plus que ça ne révèle. Aux États-Unis, c'est début mars. En Allemagne, c'est début avril. Et en France, c'est début mai. Mais j'ai envie de terminer en citant Gilles Deleuze. Gilles Deleuze disait « Seul le désir est révolutionnaire ». c'est simplement en donnant envie, et non sûrement pas en prônant, en prêchant l'austérité ou un quelconque régime autoritaire, que l'on peut y parvenir.
J'avais une dernière question hyper pratique à l'auteur de Lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaite le rester sans culpabiliser. Vous n'y allez pas de main porte dans ce livre avec les véganes accusés de mentir sciemment et d'être les idiots du capitalisme. On en reparlera une autre fois. Un lundi sans viande, à vous le décroissant, Paul Ariès. Ça, c'est une initiative lancée au Québec qui a reçu en France le soutien d'ONG de plus de 500 personnalités. C'est bon pour la planète, c'est bon pour la cause animale, c'est bon pour le porte-monnaie. Vous signez ?
Non, parce que pour moi, la vraie opposition, c'est pas entre les protéines végétales et animales, mais entre d'un côté les productions industrielles, qu'elles soient des céréales ou carnées, et d'un autre côté, une agriculture paysanne, un élevage fermier.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, Paul Ariès. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Gratuité versus capitalisme. Merci Jean-Claude Domas. La révolution matérielle, une vaste histoire de la consommation en France, paru chez Flammarion. Merci à tous les deux. France Culture, il est 19h, on est en direct et en public de la BNF à l'occasion de cette 4e édition de la Nuit des Idées. Et on va passer maintenant au 3e débat. Le smartphone, tiens, il revient, nous a-t-il domestiqué ? Hervé Gardette.
Oui, c'est un petit peu la fête au téléphone portable ce soir. Il en était question dans les deux premiers débats comme un symbole peut-être de notre surconsommation. Et pour discuter de cette question, de nouveaux invités, Karine Movilly, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste aujourd'hui, après être passé par le monde de l'enseignement et du journalisme. Vous allez publier dans quelques jours aux éditions du Seuil, Cyberminimalisme face au tout numérique, reconquérir du temps, de la liberté et du bien-être. Et puis pour discuter avec vous, Cyril de Souza Cardozo, bonsoir.
Bonsoir.
Associé fondateur d'Odalom. Odalom, c'est un cabinet d'accompagnement en transformation des organisations et des territoires. Ça, c'est ce que j'ai lu sur le site de votre cabinet. Vous travaillez en particulier sur les questions d'innovation. Vous aussi, vous avez une publication à venir. C'est chez Odile Jacob, ouvrage que vous avez coécrit, intitulé Innover comme Elon, Jeff et Tim.
Le titre a changé.
Le titre a changé. Ah, j'ai les épreuves, moi.
C'est Innover comme Elon Musk, Jeff Bezos et Steve Jobs.
Ah, c'est Steve Jobs,
très, très
finalement.
Bon titre, très
au départ,
bon titre.
C'était Tim Cook, l'actuel patron d'Apple. Steve Jobs, feu Steve Jobs, qui est évidemment est celui qui a popularisé cette marque Apple, qui produit justement des smartphones. Le smartphone, on peut dire que c'est un concentré d'innovation. Il y a énormément de choses qui sont disponibles, énormément d'applications, de fonctionnalités. Est-ce que c'est ce qui en fait, ce sera ma première question à tous les deux, le fait qu'on a peut-être du mal à s'en détacher, c'est-à-dire une telle masse de fonctionnalités qu'on pourrait presque, si ce n'est vivre en autarcie avec son smartphone, en tout cas, y faire énormément de choses. Je vais commencer avec vous, Karine Movilly.
Oui, bonsoir. Donc la question concernait la domestication ou non de nos vies avec le smartphone. Je crois qu'en fait le smartphone c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, s'il y a une domestication, eh bien elle est liée à un projet de société cybernétique qui entend nous inviter en permanence à fournir des données. À nous connecter à des e-administrations. Et c'est un petit peu ce projet de Startup Nation, cher à notre président, qui est derrière les smartphones. Et quand je dis que le smartphone est, et c'est un peu ce haut de l'iceberg par rapport à cette société cybernétique qui est aujourd'hui en projet.
Mais avant d'en venir à l'écosystème, juste pour reprendre la question d'Hervé Gardette sur l'objet en lui-même, cet objet qui ouvre un champ des possibles énorme avec toutes ces applications, toutes ces nouvelles fonctionnalités, est-ce que c'est aussi parce qu'il est aussi riche qu'on a aujourd'hui de plus en plus de mal à s'en passer parce qu'on a délégué à cet objet des pans de notre vie entiers?
Alors c'est un choix de déléguer des pans de notre vie, et ce choix on l'installe dès l'enfance aujourd'hui en offrant justement des smartphones aux tout jeunes. On commence avec le téléphone à clapet à 8 ans et puis dès 10-12 ans on enchaîne avec le smartphone. Et il y a dans ce geste fait par les parents une forme de naturalisation de l'objet qui habitue les jeunes très très tôt.
Quand on travaille dans votre domaine, Cyril de Souza Cardozo, celui de l'innovation, et qu'on s'intéresse aux grands innovateurs comme par exemple Steve Jobs, est-ce qu'on peut se contenter déjà de n'avoir qu'un seul smartphone ? Est-ce que c'est le cas pour vous ?
J'ai qu'un seul smartphone parce que c'est juste un outil. Et je pense qu'il est intéressant, en prenant un peu de recul, c'est pas l'innovation en soi qui est mal. D'ailleurs, on est passé d'une époque où on a beaucoup parlé de progrès. À la fin des années 80, on parlait de progrès, et peu à peu dans les discours, le mot progrès a été remplacé par innovation. Pourquoi ? Parce que l'innovation, eh bien, elle n'est jamais sombre ou lumineuse, elle a un peu une part des deux. Et dans chaque outil, eh bien, la nécessité finalement d'apprendre à l'utiliser. Et donc, le smartphone en soi, ça va être un progrès lorsque ça me permet véritablement de me connecter aux autres, lorsque j'accède à des applications qui sont intéressantes pour ma vie. Le problème, c'est ensuite certaines des applications que j'ai sur mon smartphone. Et pour revenir à la question, la problématique aujourd'hui est véritablement une crise de la concentration. C'est-à-dire que on a des applications gratuites qui cherchent à capter notre attention. Les principales, c'est qui ? C'est Google, Facebook, Instagram, Twitter. Et ces applications-là, elles sont gratuites. On y accède gratuitement. Donc le produit, c'est nous. Et donc, elles cherchent finalement à quoi ? À nous faire cliquer sur des annonces publicitaires.
Mais alors vous qui avez conscience de ces risques d'hyperdépendance, comment est-ce que vous faites justement pour y résister ? Est-ce que vous y arrivez ?
Et alors, en tout cas pour moi, j'essaye. Notamment, je pense qu'on est arrivé dans une époque, c'est une vraie problématique, hein, de la concentration d'ailleurs dans les entreprises. On travaille beaucoup dans les projets d'innovation. Pour pouvoir innover, il faut être en connexion avec le monde qui m'entoure, il faut être en relation, il faut avoir le temps de réfléchir. Eh bien ça, c'est pas possible si toutes les 7 minutes, je suis interrompu par une notification qui coupe ma concentration. Donc, couper par exemple ces notifications sur son portable, je pense que c'est quelque chose d'intelligent. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que les mêmes patrons de ces boîtes technologiques qui développent ces technologies coupent eux-mêmes les notifications sur leur smartphone.
Et en même temps, les notifications, c'est extrêmement valorisant, Karine Movilli. Moi, je vois que, par exemple, j'ai un compte Twitter, et quand je vois apparaître sur mon smartphone que j'ai plusieurs notifications sur mon compte personnel, bah, je suis content, j'ai envie de les voir. Je me dis, tiens, voilà, j'existe peut-être aux yeux de personnes que je ne connais pas, mais qui en tout cas soit me suivent, soit parlent de moi. Donc, c'est aussi ça qui est compliqué.
On le saura désormais. Hein. On va envoyer beaucoup de messages.
En Twitter, Hervé Gardette, hein, allez-y.
Effectivement, à ce moment-là, votre taux de dopamine monte en flèche.
Un peu comme les croquettes qu'on donne aux chats, quoi.
Tout à fait. Et vous devenez totalement dépendant à ces petits bips. Et c'est bien ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on a un effet sur le cerveau de ces notifications qui nous emmène dans des usages qui ne sont peut-être pas nos choix de départ. Et moi, ce que j'aimerais prôner un peu avec le cyberminimalisme, c'est cette idée de retrouver d'autres façons de se mettre en lien avec les autres, qui ne passent justement pas nécessairement par des applis, des méthodes peut-être un peu qu'on pourrait qualifier d'un peu vintage, mais qui sont par exemple le coup de fil et pas simplement le petit SMS. Qui sont aussi le fait peut-être de s'écrire des lettres, de se rencontrer. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, avec la possibilité d'être en lien à distance, eh bien, on sort moins à l'extérieur. Des études ont été menées sur ces adolescents américains qui se donnent moins rendez-vous à l'extérieur et dont le sentiment de solitude et d'angoisse progresse.
Cyril de Souza-Cardozo, le cyberminimalisme, est-ce que c'est un concept qui vous parle ?
Alors moi, je trouve le concept très intéressant parce que je pense que déjà le minimalisme dans nos sociétés, c'est intéressant, et le cyberminimalisme aussi, si bien sûr ça ne conduit pas à se couper du progrès, parce qu'il y a une part de progrès dans ce type d'outils. Donc oui, le cyberminimalisme, c'est intéressant parce que je pense que l'émergence de toute technologie nécessite en tout cas l'élévation de la conscience. Je dois apprendre à utiliser ces outils. Comprendre qu'en effet, on a ces systèmes de dopamine et qu'à un moment donné, ben, quand vous recevez un retweet, quand quelqu'un like un de vos tweets, eh bien, vous avez une satisfaction, vous avez votre smartphone dans la poche et ça, ben, ça vous pousse à régulièrement le regarder jusqu'à 150 fois par jour. Et ça, c'est un problème pour ensuite, en effet, être en relation avec le monde, être en relation avec les personnes. Donc, je pense que plus que, c'est pas combattre la technologie, c'est au contraire élever notre niveau de conscience face à elle, apprendre à les utiliser, et on doit apprendre, notamment, c'est vrai, aux adolescents, à utiliser ces smartphones, leur expliquer comment sont construits les business models des sociétés qui leur vendent gratuitement des éléments, sauf que en échange, nous, on leur donne notre temps de concentration. Et notre temps de concentration par jour, il est limité, c'est notre temps de vie. Et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire ?
Et j'ai eu une vingtaine de notifications depuis le début de l'émission sur Twitter.
Et oui, on a lancé un appel. Ça ne va pas cesser, ça va continuer. J'ai du mal à vous croire, Cyril de Souza Cardozo, quand vous dites que pour vous, votre smartphone, c'est juste un outil. On est nombreux aujourd'hui à presque dormir avec nos téléphones intelligents, à en faire des doudous. Vous arriveriez, puisqu'on évoquait l'hypothèse d'un lundi sans viande, à passer, à imaginer un lundi sans téléphone portable, éteint, complètement éteint, au fond d'un tiroir, laissé à la maison?
Alors non, parce que je ne vais pas me couper, en effet, de cet outil. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais décider quand est-ce que je vais le solliciter. Si je coupe les notifications, c'est pour que je décide quand je vais voir mes emails. Et si je ne vais pas m'en passer de manière générale, par contre, quand je pars au restaurant, bah, je ne vais pas le prendre avec moi. Parce qu'il est peut-être plus intéressant que je sois en connexion avec la personne en face de moi. Quand vous quitterez cet échange-là, que vous partirez dans Paris, vous pourrez regarder à la fenêtre des restaurants combien de personnes sont sur leur smartphone alors qu'ils sont en train de dîner ensemble. Il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. Donc oui, je pense que c'est compatible, on peut profiter du progrès, mais justement, apprendre à l'utiliser.
Alors vous, Karine Movilly, ce n'est pas un lundi sans téléphone portable auquel vous êtes soumise, mais c'est plusieurs années sans téléphone. En 2012, écrivez-vous dans votre livre, sur un coup de tête et en plein essor des smartphones, j'ai rangé mon téléphone portable dans un tiroir, résilié mon abonnement téléphonique et décidé d'observer la situation. Mon observation a duré 4 ans. Racontez-nous d'abord comment ça s'est passé, ces 4 années, et qu'est-ce qui vous a fait craquer au bout de 4 ans ?
Alors, ça s'est très bien passé.
Je suis sortie vivante de cette expérience.
Je suis sortie vivante, exactement. Ça a été 4 années très riches, où j'ai été en lien avec beaucoup de gens. Je me suis fait de nouveaux amis, je suis allée sur des réseaux sociaux. Mais cette expérience sans téléphone m'a permis de découvrir qu'on pouvait justement tout à fait être en lien avec les autres sans cet outil. Donc il y avait derrière un discours de nécessité qui était en réalité un mensonge. Et c'est ce mensonge que j'ai un petit peu voulu raconter en montrant toute cette façon d'échapper finalement aux données obligatoires. Parce que encore une fois, un smartphone, ça reste un téléphone, mais c'est surtout un outil de captation de données.
Mais ces nouveaux amis que vous êtes faits, est-ce qu'ils étaient dans la même démarche que vous ? Et si eux avaient continué justement peut-être à avoir une pratique assez, disons, assidue du téléphone portable, est-ce que ça n'a pas posé un problème de décalage ? Ne serait-ce que quand on se donne rendez-vous, c'est extrêmement pratique justement d'avoir son téléphone
sur
soi.
Non, détrompez-vous. Ne pas avoir de téléphone portable et le faire savoir aux autres, ça vous protège d'une chose très particulière, ça vous protège de leur retard. Les gens ne peuvent pas vous envoyer un texto en vous disant « j'arrive dans 5 minutes ». Ils sont obligés d'être là. Donc c'est très pratique. Si vous voulez avoir des gens à l'heure, n'ayez pas de portable. Ça, c'est une solution.
Donc vous faites ça pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, pourquoi est-ce que vous reprenez un smartphone ?
Alors, j'avais sorti un essai à l'époque et j'avais eu pas mal de sollicitations de journalistes qui voulaient...
Qui étaient sur l'école numérique.
Qui voulaient des réponses rapides. Voilà. Et à ce moment-là, donc je devais, n'habitant pas à Paris, n'étant pas parisienne, j'ai eu besoin de ce téléphone. Mais j'ai continué à l'utiliser simplement comme un petit téléphone à clapet. Et c'est simplement l'été dernier que j'ai pris un smartphone pour les besoins de l'écriture de mon livre, pour savoir de quoi je parlais exactement, et surtout pour pouvoir y installer des logiciels libres, parce que le cyberminimalisme, c'est un moment d'évitement du numérique, mais c'est aussi un moment d'appropriation, où on va essayer de remplacer justement des solutions propriétaires par des logiciels libres.
Et par des objets dont on avait l'habitude de l'usage et qu'on a un peu oublié, ce que vous expliquez dans votre livre, c'est-à-dire plutôt que de regarder l'heure sur son téléphone, on peut avoir une montre. Le réveil, c'est un réveil physique avec même des aiguilles. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est des aiguilles d'un réveil.
un
minuteur, il y a l'œuf, vous savez, l'œuf qu'on offrait pour la fête des mères, par exemple, ce genre de choses. L'essai que vous mentionnez et qui fait que vous avez repris l'usage du téléphone portable, c'était le désastre de l'école numérique, toujours aux éditions du Seuil. Justement, sur la question de l'école, Cyril de Souza Cardozo, depuis la rentrée dernière, alors je ne sais pas si c'est appliqué de manière très stricte, mais dans les écoles et dans les collèges, les élèves n'ont pas le droit d'avoir de téléphone portable. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît intéressant, c'est-à-dire de passer par cette obligation pour peut-être, comment dire, alors, éduquer ou en tout cas limiter la propagation du smartphone ?
Alors c'est sûr que bon, le fait de l'interdire, du coup, ça le rend encore plus attractif pour des adolescents, puisqu'on adore transgresser les règles. Bon, cependant, je pense qu'il y a une part, en tout cas intéressante, par rapport à ces notions-là d'utilisation de la technologie. Mais non, je ne pense pas que la technologie, on doive non plus la proscrire à l'école, parce qu'au contraire, on a besoin de former des citoyens éveillés à ces technologies. On doit comprendre comment un fil d'actualité fonctionne à travers un algorithme, comment il va nous soumettre des publications qui vont plutôt affirmer ou confirmer mes points de vue, comment tout ça a conduit par exemple à créer des bulles informationnelles qu'on a découvertes avec l'élection de Trump aux États-Unis. Tout ça, on a besoin de l'avoir en tête. On doit comprendre comment ces acteurs finalement fonctionnent, comment ces outils fonctionnent pour justement les mettre au service justement de nos réalisations professionnelles et personnelles, reprendre le pouvoir dessus, parce que c'est vrai que parfois on a parfois l'impression que l'utilisateur qui est utilisé par son smartphone et pas l'inverse.
Karine Mauvy, si je ne m'abuse, vous avez été prof en collège.
Oui, tout à fait.
L'interdiction du téléphone portable.
C'est une excellente chose. C'était la moindre des choses, je dirais. Mais là, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit. Je trouve qu'il y a toujours un peu un double discours entre le fait de dire qu'il faut prévenir les jeunes de toutes ces dérives d'une économie numérique, de cette prédation par certaines entreprises, etc. Et en même temps, donner ces entreprises en modèle. J'ai du mal à comprendre comment on peut donner Jeff Bezos en modèle, alors que...
Jeff Bezos, faut rappeler, c'est le patron d'Amazon.
Le patron d'Amazon, qui est quand même une entreprise de distribution géante qui tente de disrupter tous les marchés possibles. Il y a toujours ce double discours, présenter la technologie aux jeunes en disant « Attention, attention les jeunes, mais bon, allez-y quand même parce que c'est l'avenir ». Non, moi j'aimerais mieux qu'on puisse avoir un discours plus clair en disant que les jeunes peuvent tout faire sans numérique. Et c'est là l'autonomie réelle. Et c'est justement parce que on va les former à avoir cette autonomie, à pouvoir absolument tout faire sans objet connecté, qu'à un moment donné, on va pouvoir aborder le numérique.
Comment vous répondez à cette objection, Cyril de Souza Cardozo ?
Alors, on va pas rentrer dans un monde, de toute façon, sans numérique. Comment on peut justement mettre en avant ce type d'innovateur ? Alors, très concrètement, par exemple, dans mon ouvrage, je ne parle pas de Mark Zuckerberg, parce que justement, il y a un modèle d'innovation, et je les sépare. Le modèle d'innovation qui consiste, en tout cas, à produire, fondé sur des systèmes publicitaires, moi, ne m'intéresse pas parce qu'il pose des problématiques. Lorsqu'on parle, en effet, de Jeff Bezos, mais c'est valable aussi pour Elon Musk, c'est valable pour Steve Jobs, ce sont des personnes qui ont véritablement eu un impact sur le réel.
Ah, ça, c'est sûr, oui.
Exactement. Et justement... Cet impact, il est connecté à une ambition. Concrètement, chez Steve Jobs, on a eu l'envie de démocratiser l'outil informatique pour permettre justement à beaucoup de personnes de développer leur productivité. Le monde n'a pas été pareil avant et après l'informatique. Il ne reviendra pas en arrière. Elon Musk va chercher à conquérir l'espace. C'est un rêve humain, en tout cas, que certains humains ont. Et également, Jeff Bezos, il a rendu les livres accessibles à tout le monde. Alors bien sûr, on peut s'interroger sur leur modèle, il ne faut pas tout prendre. Mais il y a bien une constance, dans tout cas...
Une librairie est accessible à tout le monde.
Alors ça va dépendre aussi du pays, ça va dépendre en tout cas du livre que je vais chercher en tout cas à avoir. Et il y a quand même une constante dans l'histoire humaine, c'est qu'aucun siècle ne s'est ressemblé. Le changement, c'est une permanence. Donc... bloqué face au changement, je pense que c'est une erreur. Au contraire, il faut se l'approprier, l'utiliser.
C'est plus que des ambitions, c'est des projets de société. Est-ce que vous vous demandez quel monde il nous prépare ?
Exactement, c'est d'ailleurs la question de mon ouvrage. On a à peu près 300 licornes dans le monde. Les licornes, ce sont des startups du numérique valorisées à plus d'un milliard de dollars. On en a 17 en Europe, entre 1 et 4 en France. Ce sont ces boîtes-là, quoi qu'on en pense, qui sont en train de construire demain. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces start-up, en tout cas ces grandes sociétés maintenant, sont américaines ou chinoises. Et donc, on peut, là, ici, discuter, se dire plein de choses sur le cyberminimalisme, mais en attendant, l'avenir, il est en train de s'écrire sans nous. Et si on veut avoir voix au chapitre, il faut qu'on se réapproprie en tout cas ces sujets.
Il faut prendre la vague.
Karine Mauvilly, je voudrais terminer par une petite anecdote et une demande de conseil, vous qui avez été enseignante. Il se trouve que, alors, anecdote semi-intéressante, mais je l'avais quand même la raconter. Samedi, je vais au théâtre voir une pièce excellente, d'ailleurs, je vous la conseille, Bérénice au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Et à deux rangs devant moi, il y avait une adolescente qui a passé toute la représentation, 1h15, c'est pas si long, mais sur son smartphone. Qu'est-ce que j'aurais dû lui dire, alors peut-être pas pendant la représentation, mais après.
Elle prenait peut-être juste des notes.
Je ne suis pas sûr. Ah oui, c'est bien.
Alors, je pense un petit peu par expérience que si vous ne lui avez rien dit, vous avez bien fait. C'est-à-dire qu'en fait, tenter de changer la vie des gens ou leurs usages en leur parlant directement comme ça, ça ne sert strictement à rien. En général, ils se braquent. En revanche, le jeu est dans les mains des parents et c'est un petit peu ce que je préconise, de ne pas fournir d'objets connectés personnels avant 15 ans. Parce que ça n'est pas utile aux jeunes.
Et avez des enfants?
Oui,
qui ont cet âge-là?
Oui.
Vous êtes forte.
Trois qui ont moins de 15 ans et qui n'ont pas de portable. Et qui sont très heureux. Par contre, ils ont un téléphone, le téléphone fixe de la maison.
Ben, merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux, Karine Movigli et Cyril de Souza Cardozo.
France Culture accompagne l'Institut français et s'associe à la Nuit des idées à la Bibliothèque nationale de France jusqu'à 20h.
Il est 19h20 sur France Culture et c'est déjà l'heure de ce quatrième débat pour cette émission spéciale dans le cadre de la Nuit des idées. Olivia Gesbert, faut-il lancer des pavés pour avoir gain de cause?
Dans ce débat, deux positions s'affrontent traditionnellement. Seule la violence paye, soit, mais la violence engendre la violence. Donc, à première vue, les deux semblent frapper au coin du bon sens. On va tenter de faire la part des choses avec nos deux invités. Cécile Marchand, bonsoir. Vous êtes membre des Amis de la Terre, porte-parole du collectif Action Non-Violente COP21. Pour vous, la non-violence fédère, là où la violence devient vite contre-productive, provoquant l'hostilité de l'opinion. À vos côtés, le sociologue Manuel Cervera-Marzal, bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez de publier un essai « Poil à gratter sur la post-vérité, pourquoi il faut s'en réjouir ». Deux ans auparavant, c'était « Les nouveaux désobéissants, citoyens ou hors la loi ». Pour vous, Manuel Cervera-Marzal, la première des violences n'est pas celle des casseurs, elle est institutionnelle, structurelle et politique. Manuel Cervera-Marzal, on commence avec vous puisque vous cultivez le goût du minoritaire, vous l'avez écrit. La violence est légitime car nécessaire pour permettre au passé d'accoucher de l'avenir. Oula, face au présent, est-ce que vous donnez raison à Marx ?
Bah déjà, légitime et nécessaire, c'est pas la même chose. Hein. La violence, elle peut être nécessaire parce qu'on y est acculé, on est dans une position défensive. Voilà, je sais pas, moi, vous êtes agressé par 10 personnes, vous êtes seul pour vous défendre, vous avez pas d'autre choix que de saisir le bâton qui traîne par là. C'est nécessaire pour vous défendre. Ça veut pas pour autant dire que c'est légitime. Faut faire une différence entre ce qui est de fait et ce qui est de droit. Bon, après votre question, hein, je la reformule, elle est quand même intéressante. Faut-il lancer des pavés pour avoir gain de cause? Bon, c'est pas un cadeau, hein, cette question. J'imagine que si Cécile ou moi répondons oui, on va tout de suite être fiché en plus en cadeau. Donc.
Justement, c'est une bonne question. Lequel de vous deux a déjà lancé un pavé ou autre chose dans une manifestation? Cécile Marchand?
Non, personnellement, j'ai jamais lancé de pavé. Et effectivement, la question, elle est intéressante parce qu'en plus, elle pose question aujourd'hui en plein mouvement social des Gilets jaunes. Nous, à Action Non-Violente COP21, on considère que la stratégie non-violente, elle est la plus à même à répondre aux défis auxquels on doit faire face, à savoir le défi climatique. Et elle n'est pas seulement la plus à même parce qu'elle nous permet de créer un mouvement de masse, parce que c'est une stratégie qui nous permet une forte inclusivité, mais c'est aussi la stratégie qui est pour nous la plus efficace et qui nous permet notamment d'aller poser des dilemmes à nos cibles, de ne pas aller sur le terrain où en fait l'État est le plus fort, qui est celui des armes. Et aussi, elle permet d'éviter des effets pervers que peuvent avoir sur une lutte des actes de violence.
Alors là, on passe de Marx à Gandhi. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites aussi que cette idée de la non-violence ne vous fait pas renoncer à l'envie de lutter contre le mal. Et pourtant, vous dites que ce n'est pas une philosophie d'action, c'est un choix pragmatique. En quoi ?
C'est un choix stratégique. Pour nous, la non-violence, il faut vraiment pas confondre non-violence et pacifisme. Dans le langage courant, souvent, on dit quelqu'un de non-violent, ça peut être quelqu'un de pacifique. Or, c'est pas du tout la même chose. Nous, on a choisi la stratégie non-violente parce qu'on veut provoquer le conflit. Et la non-violence, elle permet justement ça. Elle permet de pointer une injustice et elle permet aussi de lutter efficacement contre ce type d'injustice.
Manuel Cervera-Marzal, est-ce que vous avez déjà lancé un pavé? Est-ce que vous avez été tenté de le faire?
L'envie a pu me traverser.
Mais alors pourquoi vous n'êtes pas allé au bout de votre geste?
Je suis pas allé au bout de votre geste. Mon cas personnel est pas forcément.
Pour comprendre.
Non, mais je pense que quand on regarde le monde dans lequel on est, quand on regarde le contexte dans lequel on est, un pouvoir aujourd'hui, effectivement. un petit peu, je sais pas comment le dire sans être trop trop méchant, mais un pouvoir un petit peu arrogant, un peu méprisant, avec des tendances autoritaires assez fortes. C'est dur de pas se sentir voilà, de pas se sentir entraîné dans cette spirale justement de la violence qu'on a en face de soi quand on vit dans un monde comme celui des gilets jaunes, où les gilets jaunes souvent parfois, écoutez, c'est des mères de famille qui se privent de repas pour pouvoir nourrir leurs enfants. C'est des mères qui voient leurs enfants, il y a des dizaines de milliers d'enfants aujourd'hui qui vont à l'école le matin, qui n'ont pas pris de petit déjeuner parce que le beurre, la confiture, c'est trop cher. Donc on vit dans un monde qui est comme celui-là, et je crois que c'est sain de se sentir révolté, de sentir monter en soi la colère quand on a ça sous les yeux. Alors après, est-ce que la colère, on doit en faire une colère saine, une colère calme, une colère maîtrisée, bien dans les normes, une colère maîtrisée, c'est quelque chose de compliqué. Hein.
Hervé Gardette.
Manuel Cervera-Marzal, dans les manifestations des Gilets jaunes, il y a eu des actes de violence du côté des manifestants, pas seulement bien sûr, il y a eu aussi des violences policières. Mais est-ce que ces actes de violence côté manifestants, c'est ce que vous rangeriez, vous, dans la violence nécessaire dont vous parliez au tout début ?
Mais ces actes de violence, ils sont infinitésimaux. Alors certes, ils ont occupé...
Oui, mais c'est pas la proportion dont je parle, mais est-ce que vous considérez que ça répondait quand ils ont eu lieu à une nécessité ?
Est-ce que c'était nécessaire ? Non, je sais pas si c'était nécessaire. Ce que je constate, c'est que c'était nécessaire de produire ces actes de violence. Je préfère être très précis et les désigner. C'est des destructions de biens, hein, dont il est souvent question, et pas de n'importe quel bien. Il s'agit de biens qui symbolisent les grandes banques, la finance, des voitures de luxe, etc. Donc ce type de destruction, elles étaient nécessaires et souhaitées de la part de ceux qui se trouvent aujourd'hui à l'Élysée et à Matignon, qui ont tout intérêt à ce qu'il y ait ce type d'acte, parce que ensuite ça leur permet de décrédibiliser le mouvement. D'ailleurs, c'est pas un hasard si aujourd'hui, dans le cadre des Gilets jaunes, vous avez des policiers, tout ça est parfaitement documenté par certains médias, par des vidéos qui circulent, des policiers qui se déguisent en casseurs, qui font les agents infiltrés, c'est une technique vieille comme le monde, et qui vont briser des vitrines, parce que ça permet de jeter l'opprobre sur le mouvement et de dire, regardez, ce sont eux les casseurs, alors que cette notion de casseur, elle est éminemment relative. Enfin, je veux dire, moi, à mes yeux, aujourd'hui, les premiers casseurs...
Mais est-ce que c'est pas une façon de totalement déresponsabiliser aussi des individus qui commettent des actes qui peuvent aussi assumer comme étant des actes violents, en disant, en gros, ça n'est pas leur faute, on les pousse à faire cela? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction?
Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que qui sont exactement ces personnes qui ont commis des destructions de biens au cours des derniers samedis? Une bonne partie d'entre eux sont passés le lendemain, le surlendemain, en comparution immédiate. Donc on a eu le temps, la justice a eu le temps d'éplucher leur dossier, et une infime minorité d'entre eux, hein, c'est plusieurs centaines de personnes, sont des militants politiques aguerris, alors d'extrême gauche, d'extrême droite, d'extrême centre, enfin ce que vous voulez, de longue date. L'immense majorité, ce sont des pères, des mères de famille ou pas de famille, d'ailleurs lambda, qui étaient là à leur première manifestation, qui sont venus justement défendre la dignité, venus demander une chose très simple, de pouvoir finir leur fin de mois, c'est pas terrible, et qui ont été reçus comment ? Reçus à coups de matraque et à coups de flashball. Donc dans une telle situation, effectivement, oui, vous êtes... conduit, poussé par la force des choses à la violence. Ça ne veut pas dire qu'on appelle à la violence ou que la violence c'est bien, c'est juste qu'il faut essayer de comprendre les logiques sociales à l'œuvre.
Et alors pour les comprendre, vous le dites aussi, la violence peut à la fois dissuader certaines personnes d'aller manifester, mais un dispositif policier disproportionné peut aussi inciter des manifestants pacifiques jusque-là à prendre part aux violences par solidarité ou par colère. Cécile Marchand, je reste sur le mouvement des Gilets jaunes. En quelques actes et une dizaine de samedis, les Gilets jaunes ont quand même obtenu plus d'attention, plus de concessions. Aussi parce qu'il y a eu des violences qui ont été très très médiatisées que les écolos depuis la COP21 en 2015. Est-ce que c'est à désespérer de cette forme de mobilisation citoyenne non violente que vous avez choisie ?
Non, déjà je pense que si... on ne peut pas dire que le mouvement des Gilets jaunes soit un mouvement violent. C'est peut-être que les dégradations matérielles qui ont eu lieu, ça représentait peut-être 1% de l'ensemble du mouvement des Gilets jaunes, où la plupart des actions, c'était des blocages, des occupations, des manifestations dans la plupart des villes de ce qu'on peut appeler non-violentes. Donc, c'est aussi grâce à toutes ces formes de mobilisation qu'en fait, on se retrouve avec un mouvement qui a un énorme soutien de l'opinion publique. Et alors c'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un peu une exception. Parce que c'est un mouvement où il y a eu des violences, mais qui a conservé un soutien de l'opinion publique fort. En attendant, quand on pense une stratégie, et nous, face à l'urgence climatique, l'intérêt, c'est aussi d'avoir la stratégie la plus efficace possible, parce qu'il nous reste que très peu d'années avant de pouvoir relever ce défi. On se dit, on se met plutôt du côté de la stratégie qui nous semble la plus efficace que du côté de l'exception, qui peut être le cas aujourd'hui sur le mouvement des Gilets jaunes. Et juste pour revenir sur l'enjeu de la colère, moi, je respecte la colère des gens dans la rue, et en fait je préfère largement des gens en colère que des gens indignés, parce que des gens qui ne font rien et qui sont passifs, parce que la passivité c'est la pire des choses dans une lutte, et donc je respecte cette colère. L'enjeu derrière, c'est d'aller la canaliser pour pouvoir vraiment déstabiliser son adversaire, et c'est là que la stratégie non violente devient intéressante.
Mais pour bien comprendre, Cécile Marchand, c'est-à-dire quand vous faites un comparatif entre le choix de deux stratégies, une stratégie non violente et une stratégie qui pourrait inclure de la violence, qu'est-ce qui vous convainc, qu'est-ce qui vous a convaincu dans l'organisation qui est la vôtre de choisir la voie de la non-violence? Est-ce que c'est parce que ce qui a été acquis peut-être par le passé sur ces questions climatiques l'a été davantage lorsque les actions étaient non-violentes que lorsqu'elles étaient violentes?
Non, d'abord la première chose, c'est que ce que j'expliquais, c'est que pour nous c'est la stratégie la plus à même de relever le défi climatique, parce qu'on considère que pour relever ce défi, il va nous falloir créer un mouvement de masse. Et pour créer un mouvement de masse, il nous faut des formes d'action qui soient le plus inclusives possible. Et l'avantage de la stratégie non violente, c'est que ça nous permet de dérouler un panel d'actions qui donne sa place à tout le monde. Ça nous permet d'aller faire des actions confrontatives comme on a pu aller faire, où on allait au contact avec les policiers, mais au moment où la tension montait, on la faisait baisser et on participait pas à l'escalade de la violence. Mais ça nous permet aussi d'aller construire des alternatives et d'avoir des gens qui se retrouvent dans ce type de situation, d'aller faire des manifestations où les gens peuvent venir en famille. Et donc ça nous permet une forme d'inclusivité qui nous permet d'avoir un mouvement, de faire grandir le mouvement et de pouvoir atteindre la masse. Et la deuxième chose, c'est que c'est une stratégie qui est efficace. Parce que c'est une stratégie qui nous permet d'aller poser des dilemmes sur les cibles. Quand on assume une action de désobéissance civile publiquement, par exemple, imaginons qu'on aille faire une action sur une banque au hasard, on va réquisitionner une chaise dans une banque pour dénoncer l'évasion fiscale. La banque, face à ça, à quelle situation elle est confrontée? Il y a des militants qui viennent réquisitionner des chaises dans les banques. Qu'est-ce qu'elle fait? Soit elle va porter plainte, et du coup, elle va réprimer ses manifestants, et donc ça a un potentiel de faire parler encore plus du sujet et de susciter l'indignation encore plus. Ou alors, elle va faire le dos rond et rien dire. Et dans ces cas-là, c'est aussi une forme d'aveu de culpabilité.
Là, on est encore dans les cas théoriques. Est-ce que vous pouvez nous donner deux victoires significatives que vous avez obtenues en appliquant cette méthode, cette stratégie 100% non violente?
Alors, par exemple, aux Amis de la Terre, on a des campagnes sur les banques pour arrêter le soutien aux énergies fossiles des banques. En 2016, on a obtenu, grâce à une stratégie non violente qui alliait action de désobéissance civile, plaidoyer, construction d'alternatives, etc., on a obtenu un changement dans la politique de la BNP Paribas, qui était une des banques qui finançait le plus les énergies fossiles, qui le finance encore le plus aujourd'hui, mais en tout cas un changement dans sa politique de prêt qui permettait, qu'aujourd'hui elle finance beaucoup moins d'énergies fossiles et qui permettait son retrait de projets concrets.
Manuel Cervera-Marzal, je reviens à la question de départ. Faut-il lancer des pavés pour avoir gain de cause, et notamment au mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que vous pensez que c'est la tranquille mobilisation de Gilets jaunes au rond-point partout en France qui a, à un moment, fait réagir le gouvernement, provoqué la réponse politique qui, même si vous la trouvez peut-être trop légère, a fini par arriver après un long temps de silence? Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est la multiplication de ces samedis, notamment dans la capitale, ici à Paris, qui ont aussi provoqué la réaction politique?
C'est compliqué, il faudrait demander au gouvernement ce qui l'a forcé à réagir. Non, moi ce que je remarque, c'est qu'il faut pas opposer d'emblée la résistance non violente et l'occupation pacifique, comme ça l'a été dans la plupart des cas, par exemple des ronds-points, les manifestations, les marches, les blocages de centres commerciaux. Il faut pas opposer la non-violence d'un côté et la violence de l'autre, puisque ce qu'on remarque dans le cas du mouvement des Gilets jaunes, mais en réalité c'est le cas dans la plupart des mouvements sociaux, c'est qu'on a une une complémentarité entre ces deux formes d'action. Enfin, le plus grand mouvement social du XXe siècle, c'est le mouvement ouvrier. Et le mouvement ouvrier, c'est à la fois des grèves. Des grèves, c'est quelque chose d'absolument non violent. Et en même temps, ça a pu s'accompagner d'actes de sabotage, parfois de séquestration de patrons. Si on regarde du côté du grand mouvement de décolonisation et qu'on se centre sur un pays comme l'Inde, à nouveau, il y a d'un côté la marche du sel de Gandhi où ils vont aller ramasser ce qui n'était pas autorisé, les grains de sel. Et en même temps, il y a des actions d'extrémistes hindous qui vont être des actions, bah là, vraiment des assassinats ciblés contre les représentants de l'État britannique. Et ça, c'est une constante, quasi constante des grands mouvements sociaux.
Donc il y a de la complémentarité davantage que des antagonismes.
Oui, je crois qu'il y a de la complémentarité. Il y a surtout des acteurs qui se situent plutôt du côté du pôle de la non-violence ou du côté du pôle de la violence, qui ont conscience de cette complémentarité et qui refusent en fait tomber dans le piège que leur tend le pouvoir, aujourd'hui Emmanuel Macron, autrefois les colons britanniques ou le patronat. Et ce piège, c'est quoi? C'est le piège vieux comme le monde, de diviser pour mieux régner et donc de dresser les gentils manifestants contre les méchants casseurs, les bons citoyennistes contre les insupportables black blocs. Et justement, il s'agit de pas tomber dans ce siège-là et de toujours tenir fermement sur le fait que le conflit, il oppose ceux qui défendent la justice sociale et climatique avec différentes stratégies à ceux qui défendent les intérêts de leurs amis banquiers, pour dire les choses très très rapidement. Donc voilà, je crois qu'on a vraiment des raisons historiques de pas tomber dans cette opposition entre violence et non-violence. Ils sont beaucoup plus complémentaires, même quand on regarde historiquement les rapports, par exemple, entre Martin Luther King et Malcolm X. Aujourd'hui, on les présente vraiment comme l'antithèse, deux façons de lutter, deux figures emblématiques de la lutte pour l'égalité des droits aux États-Unis. L'un partisan de la violence armée et l'autre d'actions comme Rosa Parks, de boycott des compagnies de bus ségrégationnistes. Mais en réalité, la relation entre Malcolm X et Martin Luther King, qui est une relation qui se limite à quelques échanges épistolaires, ils ne se sont jamais rencontrés, était empreinte d'énormément de respect pour leur personne vis-à-vis de l'un de l'autre, mais aussi pour leur stratégie. Donc voilà, on a réécrit l'histoire en voulant présenter un gentil, un méchant de l'autre côté, ou un vrai radical Malcolm X contre un traître réformiste à la solde des Blancs, Martin Luther King. Donc voilà, on essaye toujours de dresser les uns contre les autres, et je crois vraiment que c'est un piège.
Manuel Cervera-Marzal, est-ce que vous buvez de la grenadine parfois?
Oui, je vois pas le sens de la question.
Attention, vous allez voir, ça vient de loin.
Grenade, hein. Grenadine.
Vous n'avez jamais remarqué qu'une goutte de sirop suffit dans un verre d'eau pour qu'il devienne tout rouge? Alors ça, c'est une image que vous avez empruntée, Cécile Marchand, avec votre collectif Action Non-Violente COP21, pour expliquer les effets peut-être pervers ou l'engrenage qui peut se produire quand, dans une mobilisation citoyenne, la violence, la radicalité commence à s'immiscer dans le mouvement. C'est une logique perdante, à vos yeux, pour beaucoup d'aspects. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi?
D'abord, juste, je pense qu'il ne faut pas confondre violence et radicalité. Nous, on est non-violents, mais on considère qu'on est radical parce que les actes et notre stratégie va permettre un changement radical profond dans la société. Ça, c'est la première chose. Sur l'image de la grenadine, en fait, ce qui est important à comprendre, c'est quand on pose les cadres, en fait, et quand un mouvement choisit de poser des cadres dans ses actions, qui soit, donc, imaginons, une manifestation non-violente énoncée à l'avant et décidée collectivement à l'avance comme étant non-violente, c'est là qu'arrive le problème où des personnes qui n'ont pas participé à la décision collective viennent, par leur choix individuel, casser, entre guillemets, le cadre qui a été choisi à l'avance et donc peut permettre à l'État de délégitimer la lutte en déplaçant le débat et au lieu de répondre aux demandes des citoyens en déplaçant le débat sur l'enjeu violence-non-violence, permettre du coup à certaines personnes de plus se sentir à leur place, alors qu'avant, elles avaient quand même prévu de venir dans une manifestation dans un cadre non-violent. Nous, surtout, l'intérêt qu'on y voit, c'est quand on dit qu'on fait des actions non-violentes et qu'on pose le cadre à l'avance, c'est que les gens qui viennent respectent ce cadre. Oui.
Manuel Cervera-Marzal, face au présent, cette idée que la violence paye, est-ce qu'elle relève pour vous, parfois d'une vision à court terme. Est-ce que la violence, si elle crée un choc, si elle permet d'obtenir une réponse immédiate, elle ferme aussi un peu la porte au dialogue, elle n'inverse en rien le rapport de force dans la durée?
Oui, mais vous parlez de... Alors, plutôt que de parler de dialogue et de violence, moi, je parlerais de dialogue et de force, parce que voilà, il y a des forces qui sont non-violentes, qui sont pas forcément violentes. Et ce qu'on voit, c'est que les grands progrès, les grandes avancées sociales du XXe siècle... pour les femmes, pour les colonisés, pour les ouvriers à nouveau, elles n'ont pas été obtenues par un grand débat entre les ouvriers et les patrons, par un grand débat entre les colonisés et les colonisateurs. Elles ont été obtenues par du rapport de force pour une raison simple, c'est que quand bien même par les mots, vous parviendrez à convaincre aujourd'hui les 26 multimilliardaires que il faut davantage répartir la richesse, davantage répartir le pouvoir. Eh bien, vous les aurez convaincus, mais ils changeront rien. Ils resteront cramponnés à leurs intérêts, à leurs privilèges, et même ils vous enverront la police pour défendre ses intérêts et ses privilèges. Donc, c'est pas une manque de volonté de dialogue. C'est juste un constat du fait que le dialogue, il doit venir après. Le rapport de force, c'est le rapport de force qui permet de parler d'égal à égal à son patron et ensuite d'obtenir de lui dans la négociation qu'il reconnaisse tout simplement une certaine forme d'égalité.
Merci beaucoup Manuel Cervera-Marzal, merci Cécile Marchand d'avoir participé tous les deux à cette discussion.
France Culture accompagne l'Institut français et s'associe à la Nuit des Idées à la Bibliothèque Nationale de France. Hervé Gardette, Olivia Gesbert.
Voilà, 19h40 sur France Culture, c'est l'heure de notre dernier débat. 5 débats en 20 minutes avec 2 invités à chaque fois, s'agissant des 4 premiers. C'était déjà compliqué, mais on s'est dit qu'il fallait corser un petit peu le jeu. Et pour terminer notre soirée spéciale, notre émission spéciale, eh bien 5 de nos invités des 4 premiers débats nous ont fait l'amitié de rester pour tenter de répondre à la question suivante. Alors forcément, hein, il y aura un peu de frustration parce qu'on n'aura pas le temps de tout aborder, mais est-ce qu'on doit éteindre sa télé pour être bien informé? Manuel Cervera-Marzal est resté avec nous. Cyril de Souza Cardozo et Karine Movilly, qui nous ont parlé des smartphones, sont là également. Paul Ariès, c'était sur la frugalité. Et Corinne Maillère, c'était sur la nécessité ou pas de faire des enfants aujourd'hui. Doit-on éteindre sa télé pour être bien informé? Alors, si vous le voulez bien, avec des interventions courtes. Mais je vais d'abord essayer de vous demander une approche très littérale de notre question. Pour y répondre, est-ce que vous avez la télé et est-ce que vous vous en servez pour vous informer, Corinne Maillère? Alors approchez-vous du micro ou venez vers moi. On va essayer de se répartir un petit peu là, parce que voilà, on n'a pas suffisamment de micros pour autant de personnes. Mais allez-y, Corinne Maillère.
Oui, alors moi je regarde plus la télé depuis très longtemps, notamment la télé française, puisque je m'informe beaucoup par des médias étrangers. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que ce week-end, j'ai regardé la télé française à nouveau, alors que ça m'était pas arrivé depuis près de 10 ans. Donc je l'allume. Et je tombe sur un débat où il y avait les éternels piliers de la télé française, enfin parmi les éternels piliers de la télé française. Et donc il y avait les inévitables Alain Main qui est Christian de Boissieu. Et je me suis dit, mais le temps a passé, mais rien n'a changé. Moi j'aimerais bien voir d'autres gens à la télé, j'aimerais bien voir des gens plus jeunes peut-être. J'aimerais aussi voir davantage de femmes, là je parle des piliers de télé, hein, on est bien d'accord, et j'aimerais aussi voir des gens qui amènent des idées un peu différentes et des voix discordantes. Donc je pense que c'est une bonne raison de ne pas regarder la télé française et de s'informer ailleurs.
Paul Ariès, quel téléspectateur êtes-vous, s'agissant de l'information?
Moi ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé à la télé, mais je crois qu'on aurait tort de brûler ou de casser les télévisions. C'est pas l'objet qui est responsable, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire que je suis convaincu qu'il serait possible de faire une télévision qui soit culturelle, une télévision qui nourrisse de grands débats. Mais c'est pas effectivement ce à quoi on a droit le plus communément.
J'attendais peut-être que dans les 2 premières réponses, quelqu'un dise « Non, moi j'écoute, je ne regarde pas la télé, parce que moi ce qui m'informe, c'est d'abord la radio. »
Mais c'est pas la question que vous avez posée.
Oui, c'était pas la question, mais enfin bon,
Hervé,
écoutez.
C'est voilà. Pas la question que vous avez posée. Vous avez demandé qui regardait la télé et quel téléspectateur vous êtes. Demandez...
Vous savez bien, Olivia, que c'est pas... On n'attend pas qu'on réponde directement aux questions.
Mais non, demandez à Paul Ariès, quel auditeur est-il? Quel auditeur êtes-vous, Paul Ariès?
Ah, je suis un auditeur assidu, mais voilà. Peut-être surtout un lecteur assidu. Je crois que la critique, de toute façon, des médias, est consubstantielle à l'existence même des médias. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on est en train de passer de la critique des médias à une certaine haine des médias, voire à une haine des journalistes. Et je suis convaincu que c'est une régression et un danger pour la démocratie.
Karine Movilly, quand on est dans le cyberminimalisme, comment est-ce qu'on fait pour s'informer ?
Alors moi, j'aime beaucoup la télévision. Je crois qu'aujourd'hui, il faut peut-être plus se méfier des réseaux sociaux qui nous enferment dans une sorte de bulle informationnelle personnalisée, hein, puisqu'on finit par voir toujours les informations que l'on a plébiscitées. Alors que la télévision, au fond, reste quelque chose de plus distancié et qui peut être aussi un objet collectif que l'on peut regarder ensemble et qui permet de se positionner. Donc moi, je trouve qu'il y a de très bons documentaires à la télévision et je n'ai pas envie de la jeter dans une sorte de critique des médias. Il faut simplement se méfier peut-être des documentaires qui sortent trop à chaud après des événements. Je pense à deux documentaires qui m'ont marqué, par exemple celui qui est sorti après le deuxième tour de la présidentielle, où on découvrait Emmanuel Macron dans sa pratique de la campagne, et qui s'est révélé un documentaire hagiographique. Et même chose dans le documentaire qui est sorti juste après la victoire en Coupe du Monde, un très chouette documentaire donc sur la vie des Bleus, mais qui a zappé ce but qu'Hugo Lloris a pris lors de la finale et qui est passé comme ça délicatement dans le but.
C'est une critique extrêmement pointue quand même.
Oui, et je voulais justement pour se poursuivre sur cette logique. Mais est-ce que ça veut dire que pour vous, Karine Movilly, pour bien s'informer, il faut s'organiser un décalage entre le moment où a lieu l'événement et le moment où on va en parler et justement essayer d'en savoir davantage.
Absolument, je pense qu'il faut privilégier les documentaires qui sont faits avec un peu de distance, même si c'est aussi intéressant de regarder ces documentaires faits à chaud pour pouvoir en faire une critique de l'actualité.
Alors Manuel Cervera-Marzal, on dit que la télé aujourd'hui est devenue un objet pour dinosaures. Vous qui êtes jeune, comment vous vous informez ? Est-ce uniquement sur les réseaux sociaux, uniquement sur l'ordinateur ou votre téléphone
sur portable ? France Culture exclusivement.
Vous allez revenir, c'est bien.
Vous vous sentez bien informé.
Voilà, j'ai bien fait le travail. Non, moi, j'ai pas la télévision chez moi. C'est tout à fait délibéré. Hein. Je me méfie énormément de cet objet parce que, en réalité, dès que je me trouve confronté à un écran, alors que ce soit chez mes parents, chez mes beaux-parents, quand je pars en vacances, que je loue un logement, ou bien même dans les restaurants, parfois, mon regard est happé. Enfin, j'arrive plus à m'en détacher, quoi. Et pourtant, ce qui passe, c'est des clips nullissimes avec des nanas nées du nez. C'est les violences sur BFM TV. Je sais très bien qu'en regardant ça, je suis en train de me faire embrigader, quoi. Et pourtant, j'arrive pas à décrocher mon regard.
C'est de la méfiance pour le côté hypnotique de l'écran ou c'est de la défiance pour les contenus qui vous sont proposés ?
Mais c'est le côté, oui, il y a un côté tout à fait hypnotique de l'écran. Alors après, ce que j'observe, c'est que moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et en fait, à longueur de journée, sur Facebook, je vois défiler des images qui proviennent de la télévision. Donc je pense quand même que le travail d'adaptation à l'émergence des nouveaux réseaux sociaux a été fait chez une bonne partie des chaînes de télévision qui d'ailleurs produisent maintenant du contenu tout à fait calibré en moins de 2 minutes 30, sous-titré en gras parce que ils savent que 90% des gens qui regardent des vidéos sur Facebook le font dans le métro sans le son. Donc les télés finalement ont mis quelques années il y a eu une chute des audiences à cause des réseaux sociaux, mais elles se sont vite adaptées, elles ont saisi le pas et en fait on retrouve le contenu télévisé sur les réseaux sociaux.
Cyril de Souza-Cardozo, vous, quel type de consommateur d'informations êtes-vous et quels sont les supports que vous privilégiez pour vous informer ?
Alors moi j'ai la télé, c'est peut-être pas la première source d'information que j'utilise parce que de manière générale, je pense qu'il faut, et si on a envie d'être un citoyen éclairé, payer l'information à laquelle on souhaite avoir accès. Pourquoi ? Parce que je me méfie justement de tous les formats gratuits. Parce qu'une information gratuite...
C'est que c'est le cas de France Culture, par exemple.
Oui, enfin, mais
il y a la redevance, mais je ne sais pas si vous la payez.
Que là, il y a la redevance. Donc là, j'ai contribué au fond, j'y paye, je paye justement.
C'est bien.
Alors que tout contenu gratuit, le problème, c'est que on vient me vendre un contenu pour justement attirer et capter mon attention. On parlait de BFM TV. Finalement, on a eu les gilets jaunes en boucle. Pourquoi ? Parce que ça faisait beaucoup d'audience. Est-ce que ça représentait véritablement la réalité du terrain ? Est-ce que c'était... Non, on a donné une information. Et donc, c'est un peu compliqué, en tout cas, de l'avoir avec une information gratuite. Pourquoi ? Parce que avoir une information de qualité, ça demande d'avoir accès à des journalistes qui font un travail journalistique. Et la question derrière ça, c'est est-ce qu'il faut couper sa télé, ben pourquoi pas? Mais pour faire quoi? Pour regarder l'information dans son fil d'actu Facebook, où on va se retrouver enfermé dans des bulles informationnelles? C'est problématique parce que ce sont des algorithmes qui décident ce qu'on me montre. Non, pour avoir accès à une information pertinente, éclairante, j'ai besoin d'avoir des journalistes qui font un travail journalistique, qui prennent du recul, qui savent assembler des faits, des chiffres et me les présenter. Et ça, eh bien, ça se paye.
Mais vous le trouvez où?
Eh bien, il y a plein de plateformes en ligne aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, on m'a dit qu'il fallait sortir 3 marques, c'est ça, pour pas qu'on fasse de publicité. Mais je pense à Mediapart en ligne, je pense à Le Monde, je pense au Figaro. Eh bien, il y a des plateformes que je peux payer. Alors, quand je vais acheter mon journal, je paye cette information-là. Et en effet, l'information publique.
Mais vous savez que vous payez aussi pour regarder France Télévisions, pour écouter Radio France, pour regarder Arte, TV5 Monde et autres. Ça s'appelle la redevance.
Exactement, ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Exactement, ce sont des médias. Par contre, je paye pas TF1. Donc, qui c'est qui paye TF1?
Paul Ariès, quand on travaille à la télévision, on est soumis à une pression quotidienne qui s'appelle l'audimat. Et en préparant justement cette discussion, vous parliez d'une dictature de l'audimat. Est-ce que vous considérez que ça nuit justement à la qualité de l'information, la nécessité en tout cas d'avoir un public, mais qui ne se pose pas que pour la télévision d'ailleurs, c'est-à-dire toute la presse, radio, écrite, est soumise justement à cette nécessité?
On a la chance d'avoir des sociologues, des philosophes de l'école de Francfort qui ont beaucoup réfléchi sur les médias dans les années 60-70. Il dénonçait non pas les médias, mais l'industrie des médias. Et cette industrie des médias, c'est un peu comme la malbouffe. La malbouffe, on va viser les sensations organoleptiques de base, le sucré, le salé, le craquant, le croustillant. Eh bien, l'industrie des médias, c'est la même chose. C'est le fait divers qui fait diversion, c'est le culte du sensationnel. Moi, je rêve effectivement de revenir à un principe très simple qui serait média public, média privé, argent privé. C'est-à-dire, je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de donner les moyens financiers aux services publics pour pouvoir se démarquer, justement, des chaînes commerciales. J'aurais simplement un petit bémol sur le titre « Doit-on éteindre sa télé ?». Je sais que c'est pas le cas, mais il faudrait pas qu'il y ait derrière ce titre une forme de racisme antipopulaire. Parce que on sait très bien, tous les sociologues l'ont montré, qu'on ne regarde pas la télévision de la même façon suivant les milieux sociaux. Dans les milieux populaires, on la regarde de façon beaucoup plus collective. On la regarde aussi de façon décalée. On va regarder des émissions débiles en sachant qu'elles sont débiles pour justement pouvoir en rigoler. Donc faisons
attention.
Mais là,
vous êtes plus sur l'information, vous êtes sur la question du divertissement, ce qui est encore autre chose.
Bien sûr.
La télé, parce que quand même, pendant les dernières semaines, le mouvement des Gilets jaunes, ces événements, c'est aussi les chaînes de télévision et d'information en continu qui ont été particulièrement pointées dans leur traitement.
Mais la critique des médias...
Par rapport aux réseaux sociaux.
Bien sûr. La critique des médias, elle repose parfois sur une forme de misérabilisme. C'est-à-dire qu'on s'imagine que le récepteur, qu'il s'agisse du téléspectateur, de l'auditeur, du lecteur, serait une sorte d'idiot, serait totalement passif. Or, on a vu avec le référendum sur le traité constitutionnel européen qu'on avait beau avoir un laminage des médias en faveur du vote oui, ça n'a pas été le cas. On voit comment, globalement, les citoyens et les citoyennes apportent leur soutien au mouvement des Gilets jaunes, malgré effectivement une tendance à plutôt le décrier dans les grands médias. Donc moi, j'aurais tendance à dire, ce qui est essentiel aujourd'hui, ça serait de défendre le pluralisme. Défendre le pluralisme des idées, mais aussi des formats et du goût. Juste une chose, rien aujourd'hui ne m'horrifie plus que certains faux débats. Regardez comment, dès qu'on parle d'écologie, faut forcément qu'on ait le climato-sceptique de service. Ce qui entretient toujours l'idée que finalement, il y aurait matière à débat scientifique, alors que la communauté scientifique dit, nous allons dans le mur.
Vous avez remarqué que ce soir, on n'en a pas eu de climato-sceptique. Corinne Maillère, vous qui nous avez expliqué tout à l'heure que vous vous informiez avec la presse étrangère, qu'est-ce que vous y trouvez que vous ne trouveriez pas dans la presse française? Est-ce que c'est parce que les médias français vous ont déçu, disons d'une certaine manière, ou bien est-ce que c'est un principe? C'est-à-dire, imaginons que vous habitiez à Londres, est-ce que vous feriez la même chose? C'est-à-dire, vous vous informeriez sur le Royaume-Uni en lisant la presse française?
Il y a un classement en fait de la liberté des médias dans le monde qui est effectué par l'ONG Reporters sans frontières. Et ces dernières années, la France a été très mal classée. Donc en 2018, la France était 33e mondiale pour la liberté des médias. ce qui est très mauvais en fait. Quand on voit la liste des pays, c'est quand même vraiment très inquiétant. Et je pense que ça justifie effectivement le fait de s'informer ailleurs, de lire des informations, par exemple des informations suisses, de lire d'autres journaux. Je lis l'anglais, donc je lis effectivement des journaux anglo-saxons que je trouve mieux faits. Ça n'empêche pas que je regarde aussi ce qui se fait en France, mais je crois qu'il y a un gros souci de liberté des médias en France. Il y a un journalisme de connivence qui est systématique. On ne donne pas la place aux invités de la même façon en fonction de leur origine, en fonction de leur genre, et je trouve ça tout à fait révoltant.
Et ce point de vue-là, il faut dire que c'est pas un point de vue qui est minoritaire. Chaque année, le journal La Croix publie son baromètre sur la confiance dans les médias. À la question « Croyez-vous que les journalistes sont indépendants de la pression politique ?» Non, ils ne sont pas indépendants. Donc oui, ils sont dépendants à 69%. Indépendants par rapport aux pressions de l'argent, au monde de l'économie, non, à 62%. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement répandu. Karine Movilly, est-ce que ça, cette idée d'une moindre indépendance ou d'une mauvaise indépendance de la part des médias, c'est quelque chose qui peut aussi conditionner votre façon de consommer de l'information ?
Alors, moi, personnellement, non, parce que je varie tellement les sources d'informations que je me pose pas tellement la question de l'indépendance. Par exemple, j'aime beaucoup écouter BFM, enfin version radio, pour écouter les néolibéraux, c'est très amusant. J'écoute des radios religieuses aussi régulièrement pour entendre des chants. Enfin, je varie, si vous voulez.
Pour écouter les gauchistes, vous écoutez quoi ?
Alors, je suis un petit peu... embêté, radio libertaire quand j'arrive à la capter. Voilà, vous voyez, j'essaye de varier et surtout au maximum de lire des livres. Parce qu'en fait, quand on se pose la question de est-ce qu'il faut ou pas jeter sa télévision, en fait, on se pose la question du choix du média. Et se poser la question du choix du média, c'est déjà accepter qu'on médiatise notre rapport au monde. Or, je pense qu'on peut s'informer sans forcément passer par un média. Tout dépend ce qu'on a besoin d'apprendre. Par exemple, si j'ai besoin de savoir comment mon boucher fait sa viande ou d'où elle vient, je n'ai pas besoin d'un média pour ça, il va falloir que j'interroge mon boucher. Voyez, donc on n'a pas besoin du média pour s'informer, en fait. Et cette information, en fait, vous parlez de l'actualité, elle peut arriver, mais pas forcément tous les jours.
Alors juste, je ne sais pas si c'est une presse de gauchiste, mais peut-être tout simplement une presse de gauche. Vous aviez parlé de pluralisme, peut-être rappeler que nos confrères de l'Humanité ont besoin de votre soutien aujourd'hui, à tous lecteurs, puisqu'il s'agit de lire et de diversifier les points de vue. Hervé.
Cyril de Souza Cardozo, vous évoquiez tout à l'heure dans le débat sur le smartphone la nécessité d'éduquer les plus jeunes justement à l'utilisation. Est-ce que vous diriez que c'est la même chose? Il faudrait éduquer les jeunes à quoi? Alors la bonne utilisation des médias?
Alors à l'esprit critique. On a besoin aujourd'hui de développer l'esprit critique. Je pense que c'est de manière majeure quelque chose qui doit être au cœur de l'apprentissage scolaire. Donc je pense que oui, on a besoin d'avoir, en tout cas, développé un esprit critique. Ne pas juger les journalistes comme un monobloc. Je veux dire, c'est comme dans tout secteur. Ben, les politiques sont pas tous pourris et les journalistes non plus. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Et la question, c'est auquel j'ai accès, auquel je fais confiance. Et dans ce débat-là, finalement, la problématique, c'est quoi? C'est que l'information... On en a beaucoup trop d'ailleurs. On est dans un monde d'infobésité. C'est vraiment l'obésité de l'information. Ma question, c'est comprendre cette information. C'est l'analyser. Et ça, on a besoin d'un travail journalistique.
Un dernier mot, Manuel Servier-Marzal.
Oui, peut-être juste pour regretter que la plupart des sondages qui mesurent la défiance ou la méfiance des Français envers les politiques, envers les journalistes, etc., parlent justement des journalistes comme une catégorie englobante, alors qu'en réalité, quand on regarde, par exemple, quand on va sur le terrain, au contact d'un certain nombre de gilets jaunes, on se rend compte que... malgré quelques dérapages absolument inadmissibles qui ont été condamnés et qu'il faut à nouveau condamner, cette haine, hein, parce que parfois c'est de haine qu'il s'agit, elle est dirigée de manière très ciblée contre une vingtaine de noms de médiacrates qui sont tout le temps en permanence présents à la télévision, mais que la plupart des gens font bien la différence entre ces quelques dizaines de squatteurs de plateaux télévisés et les armées de précaires corvéables à merci qui font tout le travail du journalisme, que ce soit à la radio, dans la presse écrite ou la presse télévisée.
Merci beaucoup à vous. Merci à tous les 5 d'être restés avec nous. J'ai un problème de chiffres aujourd'hui. Merci pour cette dernière discussion d'ensemble et pour ces 4 débats menés ensemble, Hervé Gardette. Un grand merci aussi à Antoine Dulster pour la préparation de cette émission réalisée par Perret Legras.
Avec à la prise de son Gilles Manet, Eric Andra, Thomas Robin, chargé de production, Dominique Allard. Demain, vous retrouverez Arnaud Laporte et sa dispute, précédée du Club des Idées du Grand. On sera toujours en public, mais cette fois, comme chaque vendredi, au bar Le Bel Air à Radio France. Pour le Grain à Moudre qui revient dans son format habituel, nous nous demanderons si la démocratie peut se passer de médiation. Ici, à la BNF, on continue. L'antenne.
Pas l'antenne, sur l'antenne de France Culture, mais pour ceux qui souhaiteraient venir, pour ceux qui souhaiteraient rester ici, masterclass dans un petit quart d'heure de Pierre Rosanvallon par Caroline Brouet. Puis, à partir de 21h45, une seconde masterclass, ce sera cette fois Mona Ouzouf, l'historienne qui sera interrogée par Perrine Kervran. Voilà, une deux belles rencontres que vous pouvez savourer en vous joignant à nous ici à la Bibliothèque Nationale de France, la Bibliothèque François Mitterrand à Paris. Et juste encore un grand merci à toutes les équipes de l'Institut français et celles de la BNF qui nous ont accueillis.